Vous êtes sur RTL.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir à toutes et tous. On refait le match 13e de la saison et hier nous étions le 13 novembre, journée funeste gravée à jamais dans nos mémoires. Du Bataclan au bar et restaurant du 10e et 11e arrondissement en allant jusqu'au Stade de France, soir de match France-Allemagne, on s'en souvient, deux explosions. Dans ce studio, les chroniqueurs se joignent à moi évidemment pour adresser toutes nos pensées aux victimes du 13 novembre 2015, aux blessés, pour certains touchés, toujours physiquement, psychologiquement, ainsi qu'à leurs familles, amis et entourages. David Aiello, bonsoir.
Bonsoir mon cher Christian.
Une image, oui. David, de cette soirée cauchemar.
Eh bien justement, puisqu'on est, on est dans le thème du foot, je voulais rendre hommage aux deux stadiers, Salim Tourabali et Omar Mougui, qui avaient, grâce à leur sang-froid et leur courage ce soir-là, permis d'éviter que cette soirée-là soit encore plus dramatique au niveau du Stade de France, puisqu'on se rappelle qu'ils avaient empêché les terroristes de rentrer dans le stade.
Florian Gazan, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Et bonsoir à tous.
Et vous, une image?
Oui, bah, moi j'étais ce soir-là au Stade de France avec mon fils qui ne voulait pas venir voir le match. Et voilà, et je me souviens très bien de la façon dont la rumeur s'est répandue dans ce Stade de France quand il y a eu les attentats au Bataclan. Après, quand on a entendu cette explosion, on a pensé à une bombe agricole. Et puis en fait, pas du tout. Et puis ce soir-là, évidemment, comme tout le monde est connecté et que le réseau passait pas très bien, en fait, tout ça, c'est d'un siège à l'autre, comme une ola, ça s'est répandu et on a su qu'il s'était passé quelque chose de grave.
Baptiste Després, Le Figaro, bonsoir.
Bonsoir Christian.
Une
bonsoir
image.
À tous. Une image, moi je me souviens des, bah forcément des, les joueurs, les Français et les Allemands après le match, et notamment les Allemands qui étaient complètement hagards, prostrés en visionnant les images et qui sont restés au Stade de France, qui sont restés dormir là-bas. Et j'ai encore vu il y a quelques jours les mots de Joachim Löw envers le peuple français, envers les blessés et les morts de cet attentat, et je trouve ça encore plus fort 5 ans après de la part des Allemands.
Bruno Constant, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir
et
à
vous,
tous.
Une image.
Moi c'était 4 jours après. 4 jours après, il y avait un Angleterre-France à Wembley et on avait fait chanter 80 000 Anglais la Marseillaise. Et je trouvais que c'était ça montrait la déflagration de ce qui s'était passé, aussi les espèces d'unité qu'il y avait dans le monde du football, et notamment entre deux pays, la France et l'Angleterre.
Voilà, on fait le match donc spécialement dédié à toutes ces victimes de ces monstruosités. Au sommaire de ce On fait le match, pour vous informer, pour vous divertir, pour sourire également, c'est le principal, ce n'est que du football. Avant, Portugal-France, qui vous emmènera, les auditeurs de RTL, de 20h à 23h avec toute l'équipe d'RTL Foot. Eh bien, après France-Finlande et avant Portugal-France, Didier Deschamps a-t-il plus de doutes désormais que de certitudes? Paul Pogba, bah, c'est quoi le problème? Avalanche de blessés, à qui la faute? Nous nous poserons toutes ces questions jusqu'à 19h, messieurs. 19h, la Ligue 1 à 18. Le plan Labrune, sauveront-ils le football français? 19h15, Marseille, la ville du foot? Selon Leonardo, a-t-il raison, le manager du Paris Saint-Germain? Sondage Doxa, RTL, Winamax également. Où en est-on de l'image de Thomas Tuchel? Vous verrez, c'est la cata absolue. Et puis à 19h45, comme chaque samedi, les tirs au but. A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match avec David Aiello, Baptiste Després, Florian Gazan et Bruno Constant. Émission réalisée par Damien Béchiot, que je salue. Bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Filmé sur RTL.fr, hein, nous sommes en direct. Ouais. Filmé également via la toute nouvelle application de RTL. Et puis on n'oublie pas évidemment, je salue Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir Christian, bonsoir.
Vos messages sur notamment le compte RTL Foot, le compte Twitter, émission 100% interactive. Et je vous rappelle également qu'entre 20h et 23h, ce sera RTL Foot avec l'intégralité d'un très attendu Portugal-France. Justement, messieurs, c'est le premier débat qui va nous porter et transporter jusqu'à 19h. Alors, mercredi, face à la Finlande, c'était évidemment la cata. Du point de vue du score, du point de vue de la manière, du point de vue du comportement, l'équipe de France s'est inclinée 2-0. C'était un match amical. Ce soir, c'est un match de compétition Ligue des Nations. Normalement, et en attendant la composition de l'équipe de France notamment, cette équipe devrait être transformée à 90%. Est-ce qu'il fallait pilonner à ce point cette équipe de France à la sortie de ce match joué mercredi soir au Stade de France à Saint-Denis? Qui veut prendre la parole immédiatement?
Ben non. Forcément.
Constant.
Ben non, on peut pas pilonner une équipe de France qui est remaniée à 80%, dont le but de cette rencontre, c'est de donner du temps de jeu à Olivier Giroud qu'on n'a pas à Chelsea, de donner du temps de jeu à Paul Pogba qu'on n'a pas à Manchester United depuis le début de saison, de parfaire de donner un peu de temps de jeu à des, soit des nouveaux comme Marcus Thuram ou à des joueurs comme Digne qui s'avancent de plus en plus comme une doublure de Lucas Hernandez. Donc voilà, c'était un match qui servait pas à grand chose si ce n'est à donner du temps de jeu à ceux qu'on avait besoin.
Mais les titres pilonnés cette équipe de France, David Aiello.
Ah, je trouve quand même très bienveillant, Bruno, dans le sens où. C'est bien connu, une qualité. Non, mais dans le sens où tu as donné des bonnes explications. Après, au-delà de ça, dans l'état d'esprit et puis par rapport justement à certains joueurs qui pouvaient saisir leur champ, je pense qu'on attendait autre chose dans l'intention de jeu. Et puis tu jouais la Finlande, quoi. Donc, enfin, quoi qu'il en soit, je veux dire, même si tu as raison, il y a des explications. On peut quand même être déçu. Après, peut-être qu'il y a un juste milieu, effectivement, entre pilonner. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était si sévère que ça, parce qu'effectivement, il y a le contexte qui joue. Mais je pense qu'on pouvait s'attendre à mieux quand même.
Après, dans le genre de match qui sert à rien, il y a quand même des
Baptiste
joueurs qui jouent beaucoup sur ces matchs-là. Ouais. Et tu l'as dit, David, il y a des joueurs, je pense, on le verra peut-être à la liste du mois de mai-juin pour l'Euro, qui ont perdu énormément. Mercredi soir, on pense à Léo Dubois. Cœur du mois, c'est peut-être une moindre mesure, mais Steven Nzonzi, Sissoko.
Je ne suis pas sûr.
Honnêtement.
Nzonzi, je ne suis pas sûr.
Non, mais Sissoko,
quand tu vois la copie rendue par ces joueurs-là, c'est justement dans ce type de rencontre qu'ils doivent essayer de montrer quelque chose et ils ne l'ont pas du tout fait.
Mais Nzonzi, par exemple, prenons ce cas-là. Pourquoi il perdrait son statut et qui pourrait le remplacer? Il y a aucun joueur dans son profil, par exemple, dans la liste. Et on sait très bien que ça va pas être un titulaire à l'Euro, que ça va être un joueur qui va rentrer peut-être en fin de match pour bloquer des situations quand on mène. Donc voilà, il aura un rôle finalement léger dans cette liste. C'est un complément. Donc pour moi, il jouait pas un enjeu énorme.
Ouais, du coup, non, personne jouait d'enjeu sur.
Non, le seul pour moi qui perd des points, beaucoup de points, c'est peut-être l'anglais. Parce qu'il est en concurrence avec Kimpembe et que.
Mais est-ce que des joueurs du monde constant peuvent perdre des points dans un tel match en ne se connaissant pas trop? Il y a un problème de complémentarité.
Ouais, enfin, Christian, excusez-moi, mais le collectif, c'est pas la grande force de l'équipe de France. Donc, quelque part, de toute façon, on sait très bien comment elle fonctionne, cette équipe de France. On est solide derrière et puis il y a des fulgurances d'Mbappé qui n'était pas là ou des fois de Griezmann quand il est en forme ou Giroud. Donc, de toute façon, les joueurs qui vont jouer ce match là contre la Finlande, qui est quand même un match de bricolage, qui est un match de toute façon qui n'avait aucun intérêt, si ce n'est remplir les caisses de la FFF, au final, il sert personne. Il sert personne, ce match.
Pour le coup, excuse-moi de te couper, Florian, mais il y a un joueur quand même, ça lui a servi, c'est Marcus Thuram. On l'attendait, il n'a pas été exceptionnel non plus, il a raté des occasions, etc. Mais on a envie de le revoir. Il a quand même montré quelque chose dans cette bouillie qu'on a eue.
Est-ce qu'on a vraiment envie de revoir Marcus Thuram parce que c'est le fils de Thuram ou parce qu'il a brillé?
Non, honnêtement, il a fait un joueur correct.
Florian, faut être sérieux, et on sait tous autour de cette table dans ce studio que tu l'es. Mais quand tu dis que ce match ne sert qu'à remplir les caisses de la fédération, notamment, mais ça vaut pour tous les secteurs d'activité du football international européen et de clubs. Pose la question à Didier Deschamps, si lui pouvait éventuellement se passer de ce match. Non, et ce match servira à l'envers d'ailleurs peut-être, de référence. Tu sais, le fameux match référence, fameux match extraordinaire pour lancer une compétition.
Le problème,
à contrario, il y en a qui vont trinquer, il y en a qui vont devoir se ressaisir et il y en a qui vont devoir rebondir.
Je trouve Christian, que dans l'ordre des matchs, il aurait été en troisième celui-ci, c'était différent. Parce que là, évidemment.
Tu peux pas, si les cases internationales, elles sont imposées par la FIFA.
Je sais bien, mais du coup, il sert vraiment à rien dans le sens où Deschamps, les deux matchs qui comptent, on sait, c'est le Portugal et la Suède. Et le match de la Finlande, il peut pas mettre tous ses titulaires parce qu'il y a deux matchs derrière, il va pas leur faire jouer trois matchs. Donc il est coincé avec ce match-là.
Ce match sert à préparer la finale de ce soir contre le Portugal.
C'est ça, non, mais c'est ça. Le problème, c'est qu'il aura le match contre la Finlande. La défaite contre la Finlande aura une résonance. Si tu perds par exemple contre le Portugal, là effectivement, mais si tu gagnes ou tu fais un résultat dans le contenu ou dans le résultat plutôt intéressant au Portugal, tu auras oublié la Finlande. On est trop loin de l'Euro pour s'inquiéter de ce qui s'est passé face à la Finlande. On est à 7 mois.
Le contexte que l'on connaît au niveau de l'accumulation des matchs a fait qu'il était impossible que ce match-là serve de préparation. Et on l'a bien vu, puisque vous l'avez dit, l'équipe de France qu'on aura ce soir sera différente à 95% minimum.
Mais vous savez que dans un groupe, il y a 23 joueurs.
Oui, mais je sais bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire que le match de la Finlande, là, est servi de préparation pour Didier Deschamps de manière tactique ou
mais
pour.
Ce n'est pas uniquement sur la plus que ça se passe. C'est le jour et demi. Il n'y en avait pas beaucoup, c'est vrai. Mais le jour et demi passé à Clairefontaine.
Oui, mais ça, d'accord. Mais ça, il n'y a pas besoin du match contre la Finlande pour ça. Après, moi, je vous le dis franchement, que ce match-là ait eu lieu, je le comprends tout à fait. On ne peut pas d'un côté se dire le football amateur est en danger parce que la fédération n'a plus de sous dans les caisses et qu'elle a perdu beaucoup d'argent, et puis d'un autre côté se dire le match contre la Finlande, il sert à rien. Bah si, il sert à remplir les caisses,
David,
il sert qu'à ça, mais on en est là aujourd'hui.
Rappelons à nouveau que c'est un match qui devait avoir lieu la saison précédente, qu'on a recasé là.
Il y a un contrat. Qui s'est passé quelque chose cette année.
Non, mais bien sûr, Christian, mais il y a un moment donné, on peut pas avoir tout et son contraire. Après, on va parler des problèmes de blessures, de joueurs fatigués qu'on convoque alors qu'ils qui sont blessés. J'ai dit, à un moment, tout était une globalité. Et ce match-là, pour moi, ne servait vraiment à rien.
Vous savez, Florian, et cette petite musique un peu complotiste que vous...
Ah, mais pas du tout.
que vous jouez, c'est celle de ceux qui veulent dégager les séquences internationales au profit de séquences de clubs pour disputer à moyen ou long terme ce qu'on appellera le championnat d'Europe ou le championnat du monde des clubs. Les séquences internationales, les matchs de l'équipe de France, quoi qu'il soit, ces matchs amicaux, intéressants, pas intéressants, doivent être sacralisés, c'est mon avis.
Bah, peut-être, mais je pense que celui de la Finlande, on aurait pu le désacraliser, le mettre de côté exceptionnellement. Je suis d'accord avec vous. Le problème, c'est que, à faire trop de matchs, les joueurs sont moins bons, et même en séquence internationale, ça perd de son intérêt. Donc, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut,
on veut des bons matchs, on veut beaucoup de matchs. T'as un contexte global, effectivement, généralisé, où on peut se poser la question du calendrier de ces matchs internationaux, et on voit que la réponse apportée avec la Ligue des Nations, bon, bah, ça répond en partie, hein, seulement au problème, et que sur les séquences internationales, quand elles arrivent, globalement, les supporters de foot se disent, bon, bah, on s'embête un petit peu par rapport au championnat. Ça, c'est la réalité. Et après, à côté de ça, il y a le contexte actuel avec la crise sanitaire où t'es obligé de bricoler un petit peu et te dire, OK, ce match contre la Finlande, il intéressait peu de monde, mais il y a un contrat à plusieurs millions d'euros derrière. Alors, on peut pas faire un passe dessus.
Je rappelle que sur M6, ce match a permis à M6 d'être en tête de toutes les audiences. Près de 5 millions d'auditeurs, donc par voie de ricochet, autant, peut-être pas, mais pas mal, en radio, et donc plusieurs milliers d'auditeurs également. Ça veut dire que ce match était attendu aussi par un public qui veut du foot et qui a du foot gratuit.
Oui, mais ça, il y en a tellement peu à la télé qu'évidemment, vous leur mettez Estonie, Azerbaïdjan, il y aura du monde.
Si vous continuez à verser dans les caricatures jusqu'à 20h, c'est carton jaune. Hein.
Mais non, pas du tout.
C'est pas l'argument, franchement.
Bah non, l'argument qu'il n'y a pas beaucoup de foot gratuit à la télé et que malheureusement, la majeure partie des gens n'ont pas les moyens de se payer les abonnements, ça, c'est un vrai argument.
Non, ton argument, c'était de dire si vous lui mettez Estonie, je sais pas quoi, là, ça aurait été pareil quasiment.
Non, peut-être pas pareil, mais ça aurait fait beaucoup d'audience, Christian. Je vous jure que les gens sont en manque de football gratuit à la télé.
Mais bon. J'ai l'impression, quand on vous écoute, qu'il n'y a aucun enseignement à tirer de ce match-là.
Il n'y a pas beaucoup. Si, que je suis complotiste.
Non, mais au-delà de ça, mais je trouve, par rapport à certains joueurs, si on parle d'individualité, il y a quand même des choses importantes.
Hein, lesquelles?
Pogba.
Pogba, à la limite, on pourra en parler. On en parle maintenant.
Mais bien sûr, y a-t-il un problème Pogba?
C'est mon chef. Hein.
Bien. Y a-t-il un problème Pogba?
Bah, moi, je trouve que non. Non, il n'y a pas de problème Pogba.
C'est la question que tout le monde se pose.
Bien
sûr. Elle est posée dans le quotidien sportif. L'équipe a été posée, je crois, dans les colonnes du Figaro à un moment donné également.
Non, pour moi, il n'y a pas de problème Pogba. Bruno le sait encore mieux que moi. Il vit une période difficile à Manchester United. Il a eu une blessure pendant plusieurs mois. Il a eu le Covid au mois de septembre, mais il n'était pas là au rassemblement.
Ça en fait des problèmes.
Non, ça en fait des problèmes. D'accord, mais le problème Pogba, c'est quoi? Le problème Pogba en équipe de France?
C'est qu'il n'a pas problème. Il n'est ni au niveau équipe de France, ni le niveau Manchester United.
Aujourd'hui, il est dans une période de creux, clairement. Depuis quelques semaines, depuis quelques mois, il est en période de creux. Rappelez-vous.
Depuis la dernière Coupe du Monde, il est dans une période de creux.
Et donc, le mois dernier, qui fait la passe en Croatie.
D'accord, donc c'est une passe à Pogba. Sur l'équivalent de quoi, de 4 ans.
Il n'a pas été brillant sur
les 7. Moi, j'ai souvenir d'avoir fait une chronique sur Pogba en 2017.
On rappelle que Bruno Constant est également le spécialiste du foot anglais sur RTL.
J'avais fait une chronique sur Pogba en 2017, avril 2017, sur Pogba, une Ferrari sans permis. On avait débattu avec Vicente Lizarazu, d'ailleurs, sur ces antennes-là, et on était arrivé aux conclusions qu'il y a un problème Pogba. 4 ans après, on en est où? On est exactement au même point. C'est-à-dire que Pogba n'a pas progressé. Il y a toujours les mêmes problèmes. Et peu importe l'entraîneur qui succède sur le banc de Manchester United, il arrive à finir sur le banc. Que ça soit Mourinho, avant on disait que c'était le problème, ouais, c'était Mourinho, il a toujours des problèmes avec des joueurs, et puis maintenant c'est Solskjaer, et puis Pogba débute, et puis finalement il finit sur le banc. Donc à chaque fois on revient au même problème Pogba. Pogba, quand il est arrivé à Manchester United en 2016, c'était le transfert le plus cher de l'histoire.
Plus de 100 millions.
105 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est le remplaçant le plus cher de l'histoire. Est sur le banc.
Est-ce que c'est pas ça l'erreur initiale finalement? Parce que moi, j'ai l'impression que Pogba, depuis qu'il est à Manchester, la première saison c'était pas mal, mais après ça a été de mal en pis. Le Pogba qui nous annonçait qu'il serait un jour Ballon d'Or, il est où? Il est où ce Paul Pogba là?
Ça serait la faute de Manchester United si à 6 mois, enfin en janvier, il n'y avait pas un joueur qui s'appelle Bruno Fernandes qui est arrivé à Manchester United et qui a porté cette équipe de la 6e à la 3e place de Premier League. C'est ce qui était demandé à Pogba quand il est arrivé à Manchester United et il l'a pas fait. Et moi, je veux bien que sa carrière se résume à ses passages en équipe de France. Mais le problème, c'est que plus les mois passent, et c'est de moins en moins vrai sur ses passages en équipe de France.
Mais alors, vous me dites, il y a un problème Pogba, mais ce n'est pas ma question.
Pas encore.
C'est quoi le problème Pogba?
De ce que j'entends en tout cas à Manchester United, par exemple, c'est qu'il s'entraîne très mal, qu'il a une mauvaise attitude vis-à-vis du staff, de son entraîneur, des problèmes d'autorité avec ses entraîneurs, du fait que beaucoup d'anciens entraîneurs, anciens joueurs, de grands noms, hein, je parle de Graham Souness à Liverpool, de Jamie Carragher, de Gary Neville, disent tous quelque chose d'important, il ne comprend pas le jeu. Tactiquement, il n'est pas assez bon. C'est pour ça qu'il y a toujours le débat, par exemple, au bout de 4 ans, 5 ans, de son poste. On ne sait toujours pas quel est son meilleur poste.
Lui, il ne sait pas non plus, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression qu'au bout d'un an, déjà, il voulait partir de Manchester. Au bout de 2 ans, il voulait partir. Au bout de 3 ans, il voulait partir. Au bout de 4 ans, il voulait partir. Mais il y a un moment, peut-être qu'il faut qu'il parte. En fait.
Et à chaque fois pour le Real Madrid.
Oui, pour le Real Madrid ou la Juve aussi, parce que c'est un peu un essuie-glace. Juve, Manchester, Juve, Manchester. Mais en fait, le problème, il a quand même un très bon agent, normalement, Mino Raiola. Comment ça se fait que Pogba, finalement, qui est en situation d'échec à Manchester, n'ait pas bougé depuis longtemps, quoi.
Il a eu combien d'offres depuis 4 ans?
Il en a eu zéro.
Pas son agent, il a un salaire aussi qui limite les offres et les prétendants. Moi, après, globalement d'accord avec le portrait que vous dressez. Ce qui m'embête juste, c'est effectivement cette Coupe du Monde 2018 où, au-delà du jeu, dans le caractère, dans le leadership, il a été, notamment les documentaires qu'on a pu voir nous le montrer, il a été capital dans le succès de l'équipe de France. Donc, j'ai envie de me dire aussi quelque part, bon, sans doute que Didier Deschamps sait l'aborder, sait lui parler, sait le manier. Peut-être qu'à Manchester, il n'a pas eu ses entraîneurs-là qui sont capables de tirer le meilleur de lui. Donc, j'ai pas envie d'être aussi définitif peut-être que vous sur son évolution. Certes, c'est plus un jeune joueur, mais je me dis, même si c'est que sur une Coupe du Monde, mais c'est quand même le moment où il faut le faire, il a été capable d'être ce joueur-là.
La différence, c'est qu'il l'a été sur une période très courte.
Oui,
dans un contexte où il est bien encadré avec
excellents joueurs.
Y a-t-il un problème Pogba? Mais y a-t-il un problème Varane? Y a-t-il un problème Griezmann?
Giroud,
d'autres problèmes au sein de cette équipe de France. Y a-t-il un problème Giroud désormais? C'est la question qu'on pose avec ce générique. Didier Deschamps a-t-il plus de doutes désormais que de certitudes? On le verra à partir de 20h45 contre le Portugal et on en reparlera derrière la page de publicité. On fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On fait le match. Plaisir d'être en compagnie de David Aiello, Baptiste Després, Florian Gazan, Bruno Constant jusqu'à 20h, puis 20h-23h. Toutes les équipes d'RTL Foot pour l'intégralité de Portugal-France. On parlera dans un instant des Portugais. C'est une véritable finale pour la Ligue des Nations, pour participer aux demi-finales à la suite de cette compétition. Victoire impérative pour l'équipe de France ou à contrario, victoire impérative pour le Portugal. En cas de résultat nul, la finale dont on parle ce soir, elle aura lieu la semaine prochaine contre la Suède au Stade de France. Si en revanche l'équipe de France perd, basta, arrêt buffet.
Portugal tenant du titre, rappelons-le.
Et le Portugal est le tenant du titre.
Ouais.
Faites bien de le rappeler. De la Ligue des Nations.
Ouais. Oui.
D'une compétition qui vous intéresse.
Et de l'Euro aussi. Ça va, je regarderai.
Alors, messieurs, problème Pogba, problème Varane, problème Giroud, problème Griezmann. Est-ce que, la vérité, on n'est pas dans une année atypique, on ne cesse de le dire, et qu'il y a un problème pour tous ces bons joueurs, et que Deschamps, en bon manager qu'il est, joue la montre et vous présentera des joueurs au meilleur de leur forme. Et pour cela, il faudra attendre juin prochain.
Je pense que c'est compliqué quand même de laisser un constat global comme ça, notamment sur les cadres, les tauliers un petit peu, et la colonne vertébrale de l'équipe de France, dans le sens où les cas sont quand même assez différents. Si on prend Griezmann, je veux bien que Didier Deschamps soit un magicien, mais quand même, il y a depuis pratiquement 2 ans maintenant, depuis 18 mois, il y a un cas en club qui est extrêmement compliqué. Donc ça, pour Didier Deschamps, c'est quand même une problématique qu'il ne maîtrise pas complètement. Varane, on a un problème physique. Pogba, on vient d'en parler. Donc je trouve que les cas sont assez différents. Après, que lui, il soit capable, peut-être plus tard dans la saison et pour la préparation de l'Euro, d'arriver un petit peu à remettre tout ce groupe-là à niveau déjà physiquement, etc., c'est possible. Mais je trouve que là, aujourd'hui, il a quand même des problématiques extrêmement complexes à gérer par la méforme de ses joueurs,
donc,
de ses cadres.
Donc il n'y a pas le feu, attendons l'Euro. Bah, et laissons Didier Deschamps manager son équipe jusqu'au mois de juin.
Pas le feu, je ne sais pas, mais un dénominateur commun, c'est que tous ces joueurs-là sont tous des cadres et tous en souffrance en club. Après, pour des raisons différentes, je discutais pour un papier avec Franck Leboeuf qui me racontait ça, la différence, forcément, on compare toujours 98-2000, etc., avec 2020, et il me disait disais, nous, à cette époque-là, on était tous, entre guillemets, des cadors dans notre club, tous vraiment des leaders. Et alors forcément, il y a des hauts débats dans une saison, tu sais comment ça se passe. Mais là, aujourd'hui, les cadors, ils sont quasiment tous en souffrance. À part peut-être Hugo Lloris à Tottenham, sous contrôle de Bruno. Mmh. Mais derrière, Varane en difficulté au Real. Pogba, on en a parlé. Olivier Giroud, il est placardisé, il est au frigo à Chelsea. Griezmann, tu l'as dit, avec Barcelone. Donc c'est difficile aussi pour des matchs comme ça, avec le contexte Covid que vous avez rappelé, d'avoir une équipe qui se présente comme ça, sûre de sa force au Portugal.
Et on peut être d'accord avec Franck Leboeuf, mais enfin tout le monde sait, on va s'en souvenir également et le rappeler, qu'avant 1998, c'était pas extraordinaire non plus. Mais c'est d'ailleurs avant la Coupe du Monde
2018,
c'est bien cela, hein,
c'était pas extraordinaire. Moi je préfère que ces joueurs-là soient en difficulté maintenant au mois de novembre qu'au mois d'avril, mai. Franchement, je préfère ces situations. Avant, la différence, c'était que les joueurs d'équipe de France en difficulté dans leur club venaient retrouver, se ressourcer un peu en équipe de France et retrouver un peu des belles couleurs, comme Griezmann, comme Giroud. Et le problème, c'est que depuis le début de la saison, c'est qu'ils amènent leurs problèmes en équipe de France et qu'ils n'arrivent pas à briller non plus en équipe de France. Donc ça, c'est peut-être le petit truc un peu plus inquiétant. Moi, la seule inquiétude, c'est la charnière centrale. Parce qu'effectivement, une charnière centrale, c'est la base de toute équipe, et que t'as plus ta charnière centrale de 2018, parce que Umtiti, c'est fini, que t'as un Varane qui est en grande difficulté au Real, passagère ou pas, mais en tout cas en grande difficulté, et qu'on n'a pas encore le titulaire qui va l'accompagner, parce que
Varane,
l'anglais.
Kimpembe, ça peut tenir la route.
Ouais, mais on n'a pas non plus beaucoup de certitudes sur cette charnière. Mmh. On l'a pas vu assez souvent.
Kimpembe, c'est pas mal cette saison. Moi, je pense que le problème, c'est que pour Griezmann et Giroud, le problème risque de durer longtemps, et que ça joue sur la confiance du joueur. Qu'à un moment, vous pouvez pas arriver en équipe de France, il n'y a pas un interrupteur, hop, équipe de France, et je redeviens le Griezmann flamboyant.
Ça l'a été avant c'était le cas.
Oui, mais là, ça s'accumule, ça fait quand même 2 ans, enfin, ça va faire 2 ans qu'il est en échec au Barça, et je vois pas pourquoi ça changerait, à moins que Messi se blesse ou une révolution. Et ça va être ça le problème. Le problème, c'est que Deschamps, il va devoir finalement prier pour qu'il se passe quelque chose que lui ne gère pas.
Ça fait 2 ans que Griezmann, c'est.
Depuis qu'il est arrivé.
Et Pogba, ça fait combien de temps?
Pogba, il y a eu. Le problème de Pogba, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas.
Avec qui on joue?
On sait très bien que Deschamps, il n'a pas d'alternative. Il va prendre Pogba, il va prendre Griezmann, il va prendre Varane.
Ce n'est
il
pas
va
péjoratif, il a son équipe. Certaines mauvaises langues diront il a son clan. Mais il a des joueurs sur qui il sait compter, à qui il sait parler et comment parler, c'est important.
Après, il a aussi démontré parfois que quand il fallait prendre des décisions, je pense à Pogba, quand il fallait le mettre sur le banc, soit pour des questions de méforme physique, soit parce qu'au niveau tactique, les attentes, enfin, il ne répondait pas aux attentes du sélectionneur, il a été capable de le faire. Donc, moi, globalement, comme le disait un peu Bruno, je pense que là, pour l'instant, c'est pas le moment d'être inquiet. Oui, il y a des méformes de certains joueurs et pour le coup, ce sont des cadres. Mais on verra effectivement au printemps si on en est, quoi.
Mais moi, l'inquiétude, justement, je reviens sur le match du mercredi, c'est quand t'as des cadres comme ça qui sont en souffrance, qui sont en dur, c'est que derrière, ça pousse pas. Derrière, on dit Wissam Ben Yedder qui est très bon avec Monaco. Honnêtement, l'équipe de France, qu'est-ce qu'il fait, Wissam Ben Yedder? Pas grand-chose. Il a 2 buts, je crois, en sélection contre Andorre. Donc c'est pas énorme. Anthony Martial, ok. Qu'est-ce qu'il fait en équipe de France? Pas grand-chose. Après, on parle d'Enzonzi, on parle de Sissoko.
Bah, vous faites semblant de pas voir.
Mais non.
Ce sont des joueurs qui n'ont pas exactement encore le top niveau international. C'est aussi simple que ça.
Donc du coup, c'est très joueurs.
Ils n'ont pas un grand rôle dans le noyau dur de l'équipe de France sur lequel
s'appuyer
Deschamps.
Dans le noyau dur, non, mais qui vont compter dans le cadre d'une compétition. Ouais. On l'a vu par exemple
dans le cadre d'un groupe de 23 joueurs.
Oui, mais on l'a vu à la précédente équipe complète.
À une ou deux exceptions près, c'était une équipe bis.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ces joueurs-là doivent aussi un petit peu fracasser la porte, pousser et puis se dire on est là. Sauf que derrière, t'as des cadres qui sont en souffrance et honnêtement, ils sont dans leurs chaussons. Mais moi, Olivier Giroud, il joue pas du tout à Chelsea. Qui va prendre la place d'Olivier Giroud? Personne aujourd'hui.
Mais si tu parles de ce qui ressemble,
non, je parle pas de son profil. Je parle pas de
Giroud, il joue pas, faut pas le faire jouer. Pogba, il joue mal ou il joue pas, faut pas le faire jouer. Griezmann, il joue peu, il joue mal à Barça, faut pas le faire jouer. Donc tu remets l'équipe bis.
Non, mais Giroud, il va rejouer là. Sur la deuxième partie, il va jouer comme la saison dernière. Il avait pas joué quasi. Oui, il va jouer. Il va y avoir de plus en plus de matchs, de plus en plus de blessés. Tous les staffs médicaux des grands clubs sont en train de le dire. Il y a des blessures en cascade, ça tombe de partout. À Liverpool, il y a encore un blessé grave. Ça tombe de partout. Forcément, ils vont être obligés de faire tourner.
Dans un instant, on va parler d'ailleurs de l'avalanche des blessés.
Qui joue pas trop, il va se blesser. Après, je pense qu'il y a des postes où c'est moins problématique que d'autres. Par exemple, je pense qu'au milieu de terrain, à la place de Pogba, on voit quand même Rabiot qui revient fort, Tolisso est toujours là, Kamavinga. Je pense que voilà, c'est un poste où si Pogba est vraiment en souffrance à l'Euro, on aura des solutions de remplacement. Sur le poste de Griezmann, c'est plus compliqué, parce qu'on voit Aouar, Fekir, c'est dur. Et puis derrière, bon, voilà, il y a Kimpembe, mais c'est vrai que. Et on n'a pas parlé des latéraux, parce que les latéraux, pour le moment. Pavard est tout le temps blessé. Non, mais Lucas Hernandez, j'attends de le voir. Ouais, Léo Dubois, le jour où il réussira un centre. Il en a fait un quand on l'a fait. Et ben je ferai une fête. Donc on a aussi à ces postes-là des problématiques. Donc inquiétude.
Avalanche de blessés. C'est dans la suite logique du débat qui nous anime depuis 18h30. Que ce soit d'ailleurs avec l'équipe de France ou avec les autres sélections ou les autres clubs, sauf le Portugal. Avalanche de blessés. À qui la faute ?
La faute au Covid. La faute au Covid. Cet après-midi, j'étais avec Thierry Laurent, ancien kiné de l'équipe de France et aujourd'hui à Chelsea. Et il m'expliquait que c'est une cascade incroyable de blessures. Pas de Chelsea, heureusement, ils sont épargnés pour l'instant. Mais il a vu des cas. Il n'y a pas eu de préparation estivale du tout. Ils ont eu une à deux semaines. Ils ont eu pour la plupart un match amical de préparation. C'est famélique. Et les joueurs se sont préparés au fur et à mesure de la compétition. Et en même temps, il y a eu des blessures. Et en même temps, il y a un Covid. Par exemple, un Covid. Là, il y a Kai Havertz à Chelsea. Et ben, il est à l'écart complet pendant 14 jours. Au bout de 14 jours, s'il n'est pas testé positif, il peut revenir. Là, c'est pas le cas. Il était à nouveau testé positif. Et il est chez lui. Mais chez lui, il peut pas s'entraîner. Il peut s'entretenir. Mais on n'est pas là à le surveiller.
Oui, alors, du coup,
il perd quasiment un mois de compétition dans les jambes.
Mais la faute à la mise en place du calendrier qui a été mal foutu.
Oui, bah, évidemment. Ah, oui. Alors, c'est flagrant, notamment pour le Paris Saint-Germain, parce qu'il y a eu la fin de la saison de Ligue des Champions a coïncidé avec la reprise de la Ligue 1. Mais globalement, on voit bien que l'enchaînement des matchs, puisque Bruno parlait de l'Angleterre en première ligue, c'est plus 42% de blessés par rapport à la saison dernière. C'est juste incroyable. Donc, on est dans ce cas de figure-là. Après, encore une fois, je pense qu'il faut décorréler le contexte actuel dans lequel ça s'enchaîne. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Franchement, à part jouer les matchs je vois pas de solution à court terme.
Tester, comme Toni Kroos, le milieu de terrain du Real, qui dit nous sommes des marionnettes.
Non mais ça c'est sûr, c'est pour ça que
Manuel Neuer qui dit je suis d'accord. De charge de travail.
Je suis d'accord que encore une fois, il y a deux constats différents à faire sur la situation actuelle et de manière générale le fait qu'il y ait trop de matchs. En France, on a supprimé la Coupe de la Ligue, c'est déjà une bonne chose. Il faut avoir une réflexion globale. Ensuite, là, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des matchs à jouer, il y a des contrats, moi je veux bien, mais si Toni Kroos, ensuite, il n'est pas payé, il ne va pas être content non plus.
Les amis, oui. Après, il y a une gestion aussi peut-être un peu plus intelligente et pragmatique, mot cher à Didier Deschamps, à voir en ce moment. Je veux dire, le cas de Mbappé ou de Neymar, ils sont blessés, on les fait venir pour constater qu'ils sont blessés, finalement ils sont blessés, donc ils jouent pas. Pourquoi est-ce que Mbappé il est pas resté à Paris à se reposer et Neymar pourquoi il se fait un aller-retour en avion?
Potentiellement il n'est pas complètement blessé et que Deschamps espère peut-être pouvoir le remettre sur pied.
Christian,
on sera bien content si ce n'est pas une finale contre le Portugal ce soir d'avoir un Mbappé peut-être rétabli 4 jours après contre la Suède.
Mais moi je serais bien content d'avoir Mbappé en pleine bourre à l'Euro surtout.
Mais tu parles de pragmatisme justement, je trouve que le staff de l'équipe de France là-dessus ils sont plutôt bons parce que Mbappé contre le Portugal tout le monde l'attend, il joue pas, ils vont prendre zéro risque avec Mbappé. Forcément, les supporters parisiens ou Thomas Tuchel disent oui, mais ils font n'importe quoi, l'équipe de France, etc., etc. Là aussi, il y a une forme d'intelligence.
Bon, je constate qu'il n'y a pas de blessés au sein de cette équipe du Portugal.
Pas tout de suite.
Une vraie belle équipe. Tout le monde.
Ronaldo était blessé.
Elle existe depuis 2016. Le titre de champion, c'est pas du tout la même.
Pas du tout.
Franchement, c'est pas du tout la même. Ouais. J'entends partout et je lis partout. C'est une équipe qui progresse depuis son titre européen, depuis le but d'Eldea, etc. J'ai vérifié cet après-midi, il doit y avoir 3 joueurs. Allez, 4 joueurs dans le groupe total qui ont participé à l'Euro.
Mais ils ont une attaque magnifique. Ouais, sur le papier,
ils ont une très belle équipe. Sur les réseaux sociaux, Baptiste Durieux.
Il y a un sujet en particulier qui fait couler beaucoup d'encre et il concerne Paul Pogba, évidemment. Message de Yann. Pogba est un joueur de tournoi, Coupe du Monde, Championnat d'Europe. Sur un championnat, c'est trop long pour lui. Le compte Twitter Football Tactique aussi qui nous dit, est-ce que Paul Pogba a déjà eu un coach depuis la Juve qui lui permette réellement de mettre en avant ses qualités? Pas de mauvais joueurs mais des mauvais systèmes, nous dit le compte Twitter Football Tactique. Et puis le message d'Iker que confirmera ou pas Bruno Constant ici présent. Les entraîneurs de Pogba depuis la Juve ont vu qu'il était grand, qu'il avait pris de la masse musculaire. Ils ont voulu le caler à des postes qui sont plus ingrats, sachant que Mourinho voulait le mettre en défense centrale à un moment. On est loin de sa liberté et de son apport offensif qu'il avait à la Juventus.
En 10 secondes, oui, non?
Non, je suis pas sûr, convaincu.
Après 19h, la suite d'On fait le match avec un autre dossier qui suivra celui de l'équipe de France. La Ligue 1 à 18 et le plan La Brune. Sauveront-ils le football français? Publicité et les informations de 19h.
RTL, on refait le match. RTL.
Il est 19h. 19h, les informations. Alexandre de Saint-Aignan, bonsoir.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous. En plein confinement, une fête surréaliste la nuit dernière dans le Val-de-Marne, près de Paris, dans un pavillon. Plus de 300 personnes étaient rassemblées, sans aucun respect des règles sanitaires, selon les policiers qui ont porté plainte pour violence. Des affrontements ont éclaté à l'arrivée des forces de l'ordre. Personne n'a été interpellé dans l'immédiat, mais au moins un des participants est positif au coronavirus. Les autorités de santé appellent tous les participants à se faire tester et à rester confinés en attendant le résultat. Une fête sauvage, face à des restrictions qui sont parties pour durer. Le Premier ministre peaufine une stratégie sanitaire qui pourrait durer jusqu'à l'été prochain. Les commerces non essentiels devraient pouvoir ouvrir leurs portes dans 15 jours, mais pour les restaurants et les bars, c'est toujours non. Jean Castex l'a confirmé ce matin. Le principal syndicat de l'hôtellerie, lui, va tenter un recours en justice. Eux aussi contestent le reconfinement. Plusieurs centaines de catholiques ont manifesté aujourd'hui à Rennes pour réclamer un retour de la messe. Un rassemblement interdit par la préfecture en raison de la pandémie. Un autre est prévu demain à Paris sur la place Saint-Sulpice. Il est lui aussi interdit. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu hier qu'il n'hésiterait pas à envoyer les policiers et les gendarmes verbalisés en cas d'actes répétés. Je cite. Une double agression au couteau cet après-midi à Cholet dans le Maine-et-Loire. Un homme a attaqué plusieurs personnes, faisant 2 morts et 1 blessé en urgence absolue. L'individu a été interpellé à son domicile. On ignore pour l'instant ses motivations. Aux États-Unis, manifestation à Washington pour soutenir Donald Trump, le président sortant qui n'a toujours pas reconnu sa défaite face à Joe Biden. Ses partisans estiment qu'il s'agit d'un vol électoral. Ils dénoncent des fraudes sans preuve pour l'instant. Donald Trump est passé devant eux en limousine tout à l'heure en quittant la Maison Blanche pour se rendre à son golf. Sa porte-parole s'est félicitée de la présence d'1 million de personnes dans les rues de Washington. Les médias américains, eux, évoquent de leur côté seulement quelques milliers de participants. En rugby, le top 14, Toulon mène face à Agen 29-9 pour l'instant. Bayonne est en tête également face à Montpellier 23-6. Et puis le Racing 92 qui est mené pour l'instant 16-10 face à Brive. On est pour l'instant à 43 minutes de jeu pour Brive contre le Racing. Et on est dans la deuxième période, donc dans tous ces 3 matchs. Et puis cet après-midi, notez que Toulouse a battu la section paloise 22-16. Et puis en voile, le Vendée Globe, le navigateur Jérémy Bayou de retour au Sable d'Olonne après une collision avec un objet flottant. Il va tenter de réparer son bateau et de repartir pour la course autour du monde en solitaire et sans escale. La météo pour demain, une dégradation sur le nord et sur l'ouest du pays toute la journée avec des grosses pluies attendues, des fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h entre la Normandie et la Bretagne, 80 à 90 km/h du nord au bassin parisien et à la Gironde. À l'avant de cette perturbation, le soleil va se maintenir dans l'est et le sud du pays, sachant qu'il y aura toujours quelques entrées maritimes en Languedoc. Les températures pour demain après-midi, il fera 15 degrés à Dunkerque, 16 à Dijon, 17 à Paris et à Saint-Étienne, 19 du côté d'Auxerre, 20 degrés à Toulouse, 21 degrés à Cahors. Il est 19h03 sur RTL. Christian Olivier et ses chroniqueurs, c'est la suite dont on fait le match.
Prochaines informations, 20h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On refait le match avec David Aiello, avec Baptiste Després, Le Figaro, Florian Gazan, RTL, La Grosse Cote, La Chronique du Samedi Matin, rappelons-le, et Bruno Constant, notre voix du foot anglais sur RTL, et toujours avec un excellent podcast hebdomadaire. Ça marche.
100% foot anglais.
Et ça marche bien.
Ça marche bien.
À conseiller et à déguster et à consommer sans modération. Après l'équipe de France, et avant de retrouver RTL Foot 20h-23h, l'intégralité de Portugal-France, match important de Ligue des Nations. Et après avoir évoqué donc ce Didier Deschamps, qui est peut-être à plus de doute que de certitude désormais, après le match perdu contre la Finlande et avant de jouer celui de, contre le Portugal. Retour à notre football français, championnat, Ligue 1 à 18 et plan Labrune, nouveau président de la LFP, Ligue du football professionnel. Est-ce que ce plan, est-ce que cette Ligue 1 à 18 sauveront le football français? Alors pourquoi je pose cette question? C'est que dimanche dernier, il y a eu une sorte de discours de politique générale, on va dire ça comme ça, de la part de Vincent Labrune, sans grosse révélation chez nos confrères du JDD, mais avec quelques orientations. Et d'ailleurs, si l'on veut être précis, Vincent Labrune ne dit pas qu'il a dit que la Ligue 1 devrait se jouer à 18 clubs. Il souhaite une réduction des clubs, donc ça peut être à 16.
Oui, exactement.
Mais ça ressemble depuis quelques heures à une petite marche arrière, car il a sondé quand même les présidents de club. Noël Le Graët lui a demandé sans doute de se calmer un peu. On a lu ça dans l'équipe cette semaine. Donc, il a vraiment précisé que le nombre de clubs n'avait pas encore été à régler. Et pour que cette affaire se mette en route, il faudra du temps. Autre chose, il réclame un retour de l'incertitude sportive. Alors là, de quelle façon? Mystère et boule de gomme. Il veut attirer.
Si, enfin, moi je vais vous répondre.
On va décortiquer. Il veut attirer de nouveaux partenaires et investisseurs.
Et ben voilà. Donc ça répond à la question précédente.
De retrouver
si on a des nouveaux investisseurs, d'accord, on a des clubs plus puissants, okay, donc il y aura plus de rivalité.
Il veut quoi d'autre? Ah oui, si, la création d'une... Alors attention, c'est important également, d'une filiale commerciale, et non pas d'une société commerciale comme elle existe, je crois, en Angleterre.
Comme la Première Ligue, oui,
parce que c'est interdit en France.
C'est interdit en France. Alors, la Ligue 1 à 18, c'est un vieux serpent de mer.
Oui, mais moi je trouve que globalement, effectivement, vous l'avez dit, c'est une sorte de plan un petit peu sur ce qu'il compte faire à la tête de la Ligue. Moi, j'ai été agréablement surpris par ce qu'a dit Vincent Labrune dans cette interview. Premièrement, parce qu'il dresse enfin, j'ai envie de dire, un bilan honnête de la position du football français, notamment sur l'échiquier européen, où il revient effectivement sur cette fameuse expression des cinq grands championnats européens qui n'existent qu'en France. Si vous allez à l'étranger, on ne considère pas que la Ligue 1, enfin, il y a un fossé entre les quatre premiers championnats et la Ligue 1.
Donc, il ne peut pas dire autre chose, David. C'est pas une révélation,
c'est pas une révélation, mais c'est le premier dirigeant du foot français qui le dit. J'ai jamais entendu Noël Le Graët le dire, j'ai jamais auparavant entendu Didier Quillot le dire. Donc moi, je pense que effectivement, pour commencer, dresser un bilan honnête de la situation et de dire la Ligue 1 est à la traîne par rapport aux quatre premiers championnats européens, je pense que c'était une bonne base. Donc moi, je le félicite pour ça. Et par ailleurs, il a des bons arguments, notamment les résultats en Coupe d'Europe, puisque effectivement, on n'a rien gagné depuis 1996. Donc je trouve que déjà son bilan de base, il est bon et il est honnête, et c'était bien de le faire. Ensuite, ce que j'apprécie également dans son discours, c'est qu'il se positionne sur, ce sont ses mots, sur l'écosystème du football français. C'est-à-dire qu'il a envie de révolutionner un petit peu le modèle du football français.
Qui est une industrie.
On a pris Vincent Labrune, c'est un dirigeant moderne. Effectivement, il a envie de sortir du conservatisme dans lequel est enfermé et l'entre-soi dans lequel est enfermé le football français. Moi, globalement, sur les intentions et sur les mots, j'ai été extrêmement séduit. Après, et vous l'avez commencé à l'évoquer, là où je reste prudent, c'est que je me demande s'il va avoir les moyens d'emmener tout le monde derrière lui. On sait que c'est un fin stratège et on l'a vu avec son élection à la LFP. Je me demande s'il va réussir effectivement à emmener tout le monde et à casser justement ce conservatisme qui gangrène pour moi le football français depuis longtemps.
Le championnat 18, il y a déjà beaucoup de réticences. Parce que la vérité, c'est qu'il y a, il y a 5 clubs qui sont favorables à jouer à 18. Le PSG, un peu plus, Lyon, Monaco, Marseille, Rennes, et je dois oublier...
En 7-8, allons à 7-8. Allez,
pour avoir un petit peu plus de sous, parce qu'il y aura deux clubs en moins, donc le gâteau sera... Il y aura moins de parts à trancher.
Ouais, mais les autres veulent rester en Ligue 1.
Oui, mais c'est pareil en Ligue 2. Moi, je suis assez contre cette idée parce que je trouve que malheureusement, une des grandes forces du foot français, c'est de sortir ces jeunes, de faire jouer des joueurs et que plus vous enlevez de clubs, moins ils ont d'espace pour jouer ces joueurs-là. Et c'est malheureusement une des clés de l'économie et de la survie du foot français.
Donc veux qu'on reste dans notre petit championnat qui forme des joueurs et qui les revend chez les riches voisins.
Mais non, mais il y a notre
mot qui les forme à peine. Non, mais il te donne la certitude de conserver les joueurs.
Non, mais comme j'ai dit, il a un plan global où effectivement, l'idée, c'est de tirer tout le championnat vers le haut. Donc, si on veut rester dans ce petit championnat qui forme des joueurs et qui ensuite peut pas les garder, on peut faire ça. Ouais.
C'est pas le fait de passer à 18 qui va faire que non, tu vas être plus compétitif.
Tu peux aller
plus loin dans la bêtise, passer à 16 ou à 12 comme le championnat écossais. Il y a moins d'équipes.
On ne permettrait pas quand même de dire que le plan.
Allons plus loin dans la bêtise. On met 12 clubs. Les clubs se rencontrent 4 fois dans la saison.
Pour l'instant, il a pas parlé de 12. Il a pas parlé de 16. Il a parlé de 18.
Le foot écossais chute.
Non, il a même pas parlé de 18. Non, réduction. Il a parlé de réduction.
Donc ça peut aller encore plus loin dans la bêtise. C'est ça que je dis. Ça peut aller jusqu'à 16.
Parce que 18 pour toi, c'est une bêtise.
Pour moi, c'est pas que c'est une bêtise, c'est une solution miracle qu'on brandit depuis quelques années, mais on n'a pas de vérification là-dessus. Regarde la Bundesliga par exemple, qui est un championnat très compétitif, ils sont à 18 clubs depuis une éternité. Combien de Coupes d'Europe a gagné l'Allemagne sur les 20 dernières années?
Plus que la France.
2.
Bah oui.
Deux, par un seul club, le même, c'est le Bayern de Munich. Oui, qui est l'équivalent, on va dire, du PSG en France.
Qui lui peut jouer à 15, et à 18, à 22.
C'est qu'ils sont passés à 20, 2-3 saisons après le mur de Berlin. Pour faire venir les.
Oui, pour attirer les Allemands
d'Allemagne de l'Est. Et ils sont revenus à 18.
Mais c'est pas le passage de 18, de 20, de 16 qui va changer les choses. D'abord, il faudrait déjà mieux travailler dans les clubs. C'est surtout ça le problème français, c'est qu'on travaille mal dans les clubs, on ne sait pas recruter. On s'est formé, mais on ne sait pas recruter. On ne sait pas diriger, gérer des effectifs. On n'a pas d'entraîneur avec des vrais philosophies dieux. On est toujours dans le court terme. Ce qui s'est passé, les remises en cause qu'il y a eu, notamment en Allemagne, au moment de la Coupe du Monde, qui a été un désastre, en Angleterre aussi, il y a une dizaine d'années, c'était de reformer, de retravailler sur les entraîneurs et le profil des joueurs. De travailler à des profils plus techniques, de donner plus de priorité aux joueurs qui sont techniques plutôt que le physique. Ce qui a été un mal aussi en France. En France, on a fait passer des joueurs beaucoup trop physiques dans les catégories jeunes parce que tu gagnes avec ces joueurs-là, mais au final, tu formes pas des joueurs qui sont en dessous d'1m70.
Oui, mais enfin,
c'est plus une
politique
de la fédé
générale.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça fait pas partie exclusivement du périmètre de Vincent Labrune aujourd'hui.
Oui, là aujourd'hui, Vincent Labrune fait partie du succès du football français.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'au niveau de la ligue, au niveau de son discours de politique générale entre guillemets, je trouve ça intéressant qu'il mette ça sur le tapis. Après, à tort ou à raison, chacun va dire oui, ça, il faut faire ça, non. Mais passer à 18, pourquoi pas? Aujourd'hui, on le voit quand même dans le championnat. Aujourd'hui, très concrètement, on regarde les matchs tous les week-ends. Est-ce qu'il y a 20 bonnes équipes en Ligue 1?
Mais il n'y en a pas 18.
T'en auras deux de moins, quoi.
Bah ouais,
est-ce que t'en
auras
18 de meilleurs?
Après, est-ce qu'en termes de densité, est-ce que le ventre mou qui sera réduit, est-ce que là-dessus, c'est pas des idées aussi à aller chercher?
Moi, je veux bien, mais en Espagne, tu en as 20.
Mais partout, il y en a 20.
En Italie, tu en as 20.
En Angleterre,
en Angleterre, en Angleterre, on va mettre l'Angleterre de côté parce que là ils ont les moyens, les impôts, etc. Bon, bref, et on est un peu le paillasson aussi de l'Angleterre de ce point de vue-là. Mais quand tu prends le ventre mou du championnat espagnol ou le ventre mou du championnat italien, ce qui n'est pas grosso modo, hein.
Pour l'Espagne, je pense pas. De pour l'Italie, même, peut-être, mais.
Du même niveau que le football français.
Non, mais Christian, après, le truc, c'est que.
Moi, je dirais non pour l'Espagne, en tout cas. Après, pour l'Italie, ça se voit peut-être, ouais.
Non, mais ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'en France, globalement, on n'a quand même pas non plus des dirigeants toujours de très haut niveau dans l'Espagne.
C'est aussi à ça qu'il faut s'attaquer.
Ah oui, mais pour moi, c'est ça la priorité. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'argent en France. Enfin, je suis désolé. Monaco, il y a eu quand même énormément d'argent et on ne peut pas dire que, à part une saison où ils étaient champions, ça a été flamboyant. Marseille, Macron, il a révélé 200 millions, il les a mis sur la table. Lyon, il y a de l'argent, ils ont un budget qui est pas loin de l'Atlético Madrid. Ben, on voit, ils font 7e la saison dernière. Il faut aussi se remettre en question à ce niveau-là. C'est-à-dire que les moyens, on les a. Si le championnat il est aussi médiocre, c'est aussi parce que souvent, on a des dirigeants qui dirigent mal.
On recrute des joueurs moyens à des prix très élevés. Avec l'OM, on l'a vu avec le PSG, avec des joueurs à 40 millions qui ne jouent quasiment pas, qui sont sur le banc, comme Paredes.
Oui, mais qu'est-ce que Vincent Labrune peut y faire? Enfin, c'est pas lui qui nomme les dirigeants de club.
Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce que tu vas changer le nombre de clubs.
Ça a été sorti de l'interview, elle est quand même assez longue. Moi, je trouve qu'il y a un ensemble de mesures qui sont assez intéressantes.
Discours de politique générale.
Parce qu'effectivement, ça s'attaque à l'ensemble des problématiques sur lesquelles il a la main du football français, de moderniser le football français. On est quand même resté globalement dans le football à papa des années 80 sur un mode quasi associatif pour la moitié des clubs.
Oui, mais alors ça, on n'a pas le choix. Hein. Et on paiera toujours plus d'impôts qu'ailleurs.
Mais ça, il en parle aussi.
Autant que la.
Christian, il en parle aussi. La place du football en France.
Les impôts payés par le PSG, c'est autant que la Bundesliga.
Mais il en parle de ça dans l'interview aussi. Il dit également que le football français, d'un point de vue politique, n'est pas respecté. On l'a vu avec la crise du Covid au printemps. Et qu'il faut travailler là-dessus aussi. Donc ça aussi, ça va dans le bon sens.
Donc il n'y a pas de solution.
Mais si, parce que ça, c'est une solution. C'est justement de donner plus de poids au football français.
Personne n'a relevé. Parce que personne n'a relevé. Il a un soutien important quand même à Vincent Labrune.
Dites-nous.
Didier Deschamps. Et si Didier Deschamps succédait à Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football,
vous y croyez-vous ?
Non, bien sûr, j'exagère. Ce que je veux dire, c'est que Didier Deschamps, en conférence de presse, a soutenu l'initiative de Vincent Labrune. Pendant que Noël Le Graët à la Fédération mettait les pieds sur la pédale de frein.
Parce que Didier Deschamps, dans son rôle de technicien, de sélectionneur, il est, entre guillemets, c'est logique de dire ça, parce qu'il veut moins de matchs pour ses joueurs.
C'est son intérêt.
Ben oui, bien entendu.
Les joueurs sont plus frais pour lui quand ils arrivent en sélection, s'ils ont moins de matchs.
Il n'y a pas beaucoup qui jouent en France non plus.
Mais c'est vrai.
Il n'y a pas beaucoup de gens d'équipe de France qui évoluent.
Justement, on aimerait qu'il y en ait plus. Quoi. Donc on aimerait que la Ligue 1 soit meilleure.
Bon, on reviendra, je pense, parce que ça a été un serpent de mer. Ça a existé d'ailleurs. Il faut s'en souvenir.
Avant 2002.
Voilà, à la demande d'Aimé Jacquet.
Pour préparer la Coupe du Monde 98.
Et c'était sous la présidence à la Ligue de Noël Le Graët. Et on est revenu ensuite à un championnat à 20 clubs.
En 2002.
19h15, les réseaux sociaux avant la publicité. Et on fait le match 100% interactive, émission filmée sur RTL.fr et sur la toute nouvelle application, bien sûr. Le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
Absolument, Christian. Message de Canap FC qui nous dit tout à fait d'accord avec Deschamps. Évidemment que Vincent Labrune ne va pas se faire des amis, mais il n'est pas là pour ça. Je pense que dans l'élite, plus c'est resserré, mieux c'est. 18 clubs, c'est tirer le foot français vers le haut. Et au vu des cadences du contexte, c'est une décision intelligente. Interview lucide et pertinente, nous dit François par rapport à Vincent Labrune, qui rajoute également, il est temps que le football professionnel français comprenne le nouveau monde dans lequel il est. Message de Thomas qui est également pour cette Ligue 1 à 18 clubs. Moins de clubs, donc plus de droits TV à se partager et calendrier allégé, donc pourquoi pas. Message de Sylvain qui est contre, par contre, il nous dit personnellement, je suis contre cette réduction du nombre de clubs en Ligue 1. C'est le point de vue qu'essaie d'imposer les gros clubs, on veut du Angers, du Amiens, du Grenoble, du Havre en Ligue 1 de temps en temps. En plus, on l'avait déjà réduit dans les années 90 sans succès. Et puis Shana aussi qui est contre et qui nous dit mélange de nivellement par le bas et de fantasmagorie sur le modèle allemand, pourquoi pas à 14 comme au rugby tant qu'on y est, pendant que les joueurs passent la moitié de l'année à jouer des compétitions internationales inutiles comme la Ligue des Nations.
Toutes les opinions s'entendent et toutes les opinions sont audibles.
Vous savez que le passage à 18 clubs, par exemple, c'est une idée qui est en train de trotter dans la tête des clubs anglais, notamment des clubs importants en Angleterre, du top 6, qui veut jouer moins de matchs mais pouvoir faire surtout des tournées estivales aux États-Unis, en Chine ouais. Parce qu'elles sont lucratives, rapportent beaucoup d'argent.
Ah, le projet sportif.
C'est le foot business, mon pauvre monsieur.
Ouais, ouais.
19h17, la publicité, et ensuite Leonardo, le manager du Paris Saint-Germain, cette semaine, qui a carrément déclaré que Marseille était la ville du foot. Les supporters du Parisien ne sont pas heureux, du Paris Saint-Germain ne sont pas heureux, bien évidemment. Ah, est-ce qu'il a eu raison, Leonardo? Puis on parlera également de notre sondage Odoxa, RTL Winamax. Où en est-on de l'image de Thomas Tuchel? À tout de suite.
RTL, on refait le...
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match.
Ça passe à une vitesse folle si on fait le match. 19h18, le Paris Saint-Germain, Leonardo à présent. Je vous rappelle vos prochains rendez-vous. On parlera de Thomas Tuchel avec nos amis d'Odoxa et de Winamax sur l'image de Thomas Tuchel. Et puis un rendez-vous évidemment maintenant incontournable. Déjà, comment dire...
Culte.
Oui. Merci.
C'est
Les tirs au but. Une série de questions, de sujets pour purger, j'aime bien ce terme, purger l'actualité qui n'aurait pas été évoquée tout au long de cette émission, sans vous prévenir des thèmes d'actualité. Et au coup de sifflet, évidemment, c'est à vous de démarrer, de vous emparer du micro. Leonardo, Marseille est la ville du foot. C'est ce qu'il a déclaré dans un... Comment on peut appeler ça? Un plan média. Je ne sais pas si c'est un plan média, en tout cas.
Une interview au club.
Non, pas au club, donnée aux supporters.
Sur le site du club.
C'est une façon de communiquer. Quoi.
Mais avec, voilà, c'est une façon assez particulière, car finalement, il n'y a pas trop de contradictions. Les supporters sont là, mais il n'y a aucune contradiction.
Oui, c'est une sorte de public reportage quelque part.
Bon, sauf que là, il y a eu une faute de quart de Leonardo.
C'est là où c'est étonnant d'ailleurs.
Oui,
c'est pour ça que c'est
comment
étonnant.
Peut-il dire que Marseille est la ville du foot? Alors attendez, est-ce que c'est une vraie faute de quart? Est-ce que c'est quelque chose qui ressemble à un dérapage contrôlé,
maîtrisé, voulu?
Maîtrisé, oui.
Mais dans ce cas-là,
pour
dans quel intérêt? Enfin, je veux bien, mais je vois pas dans quel pourrait être son intérêt.
Marseille est la ville du foot, a-t-il dit. Hein, il aurait pu dire Marseille est une des villes du foot en France.
Il aurait pu surtout dire Madrid ou Barcelone ou autre chose.
Alors, est-ce que Marseille est la ville du foot? Est-ce que pour vous, c'est une erreur grossière de la part du manager Leonardo?
On peut appeler ça comme
Baptiste
on veut, mais malgré tout, c'est une maladresse. Quand t'es directeur sportif du Paris Saint-Germain, tu peux pas dire que Marseille est la ville du foot.
Même si
aujourd'hui, dans les faits, je trouve, dans le fond, il a raison dans ce qu'il dit. En fait, dans son explication, dans son argumentaire, parce que j'ai revisionné l'extrait, et donc il compare le Paris Saint-Germain qui a 50 ans d'existence avec des clubs qui sont encore plus anciens, des centaines d'années, etc. Et après, il en vient à dire que Marseille...
Milan et l'Ajax Amsterdam,
voilà,
de
notamment,
mémoire.
Il en vient à parler de Marseille, qui est la ville du foot.
Ah non, alors avant de parler de Marseille, je trouve ça très inquiétant, pardonnez-moi de vous interrompre, il parle de la Ligue des Champions, en disant, ces clubs-là ont gagné la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, et alors il y a un truc un peu emberlificoté, où il nous dit, nous, la Ligue des Champions, mais on n'est même pas sûr de la gagner, grosso
modo. C'est une façon de dire à chaque fois, c'est le refrain qu'on entend au Paris Saint-Germain, on a un club jeune, on a le temps, le Qatar est là.
Oui, mais ça c'est pas trop mal, je trouve, parce qu'ils se sont mis beaucoup de pression ces dernières années à dire, on veut remporter la Ligue des Champions. Souvenez-vous, quand ils sont arrivés dans les 5 ans, ce qui était une utopie complète. Donc là, qui est lui, et c'est ce qu'il matraque depuis son retour, à savoir que c'est très compliqué de la remporter, qu'il n'y en a qu'une équipe qui la remporte tous les ans et qu'il ne faut pas en faire une obsession. Donc ça, je trouve ça
plutôt
bien.
Mais vous parlez de pression, est-ce que ce n'est pas une certaine façon, justement, d'enlever un peu de pression par rapport aux événements qui existent autour du Paris Saint-Germain, à la fois extra-sportif et sportif?
Mais oui, c'est une manière de dire que c'est peut-être plus compliqué à Paris qu'ailleurs. Parce que Paris n'est pas vraiment une ville de foot, et Marseille est une ville de foot, c'est une vérité absolue. Quand vous posez le pied à Marseille, vous voyez des logos de l'OM partout, des maillots de l'OM qui se ramassent dans la rue, ça sent le foot, ça parle de foot tous les jours, à n'importe quelle heure, c'est une ville de foot, et c'est la plus grande ville de foot en France, évidemment. Et Paris, c'est plus compliqué, parce que Paris, c'est une grande capitale, c'est un peu comme Londres, New York, Tokyo, c'est une ville culturelle, donc il y a plein de choses à faire, et que le foot est une petite partie. La seule différence avec Londres, par exemple, à Londres, ça parle foot parce qu'il y a 10 clubs. Mais s'il n'y avait pas 10 clubs, ça serait une ville comme
l'autre. Oui, mais ça, c'est pas... De toute façon, c'est pas le problème personne n'a contesté le fait que Marseille était une ville, plus une ville de foot que Paris. Le problème, c'est que ce soit lui qui l'ait dit. Et moi, encore une fois, je vois pas l'intérêt qu'il a eu. En plus, je trouve qu'il y a un véritable paradoxe dans ce qu'il a énoncé. C'est-à-dire qu'il dit, Paris n'est pas une ville de foot. Et en disant ça, si c'est arrêté là, à la limite, pourquoi pas, mais en rappelant que Marseille en était une, il vient piétiner l'un des fondements de la culture foot, en tout cas de club, qui est la rivalité. La rivalité dans toutes les villes de foot, justement, elle existe. Et lui, il vient nous dire, cette rivalité, finalement, j'en tiens pas compte. Donc, je comprends pas son raisonnement. Je veux dire, un dirigeant de club, de grand club, avec une histoire, il a pas à parler comme ça de la rivalité.
Les anciens, on peut apprécier, Jérôme Rotten, Luis Fernandez, les supporters historiques également.
Non, mais là où il a été très maladroit et il parle suffisamment bien français pour savoir ce qu'il dit. C'est qu'il peut pas dire Paris n'est pas une ville de foot, c'est clair, parce qu'à Paris, ben le foot, il y a le cinéma, il y a le théâtre, il y a tout ça.
C'est secondaire.
Mais le Parc des Princes est un lieu de foot, un énorme lieu de foot. Et depuis la naissance du club, comme le rappelait avec certainement un peu de malice Jérôme Rotten, quand Paris jouait le maintien, le Parc des Princes était plein. Quand Marseille va mal, le Vélodrome est vide. Je rappelle quand même qu'il y a une âme, il y a un cœur football à Paris, mais c'est au Parc des Princes. Mais Paris, dans l'absolu, c'est vrai, pas une ville de foot par rapport à Marseille. Marseille, l'OM, c'est le cœur de la ville. C'est-à-dire, c'est le poumon, le cœur, tous les organes. Et ça, c'est vrai. Mais il peut pas le dire. Il peut pas le dire parce que, en plus, on sait très bien qu'il a une relation un petit peu distante, voire compliquée avec les supporters. Et là, il met de l'huile sur le feu inutilement.
Ah bah, c'est silence radio entre le collectif des supporters.
Ultra Paris, ouais.
Le cube.
Il a refusé de les entrer chaque présent. Mais après, c'est pas, finalement, sa sortie, elle est pas tellement étonnante quand on connaît un petit peu le personnage. C'est quand même une personne qui est passée d'entraîneur du Milan AC, enfin de l'AC Milan, à l'Inter Milan dans la foulée. Et en Italie, ça a été vécu comme, bah justement, parce qu'il y a une grande culture foot dans ces deux clubs.
Alors, est-ce que Milan, qui est la ville de la mode, est une ville du foot?
Pas vraiment.
Bah peut-être pas au sens où on l'entend, mais justement, mais non c'est pas un paradoxe, parce que justement j'ai dit parce que il y a les villes et les clubs, et on peut pas dire que l'Inter et notamment leurs supporters et l'AC Milan sont pas des clubs qui ont une base, ils ont une culture foot. Et lui, vous voyez bien, il est passé de l'AC Milan à l'Inter comme ça, et souvenez-vous que Gattuso notamment lui en avait énormément voulu, parce que pour lui, pour les personnes qui ont la culture foot en eux, ce ne sont pas des choses qui sont possibles.
Il faut s'appuyer sur encore 50 ans de plus de fondation historique pour dire que quand.
Mais en tout cas, je trouve que ce qu'il a dit ne va pas dans le bon sens. Pour moi, c'est là encore, je répète, c'est un paradoxe, c'est que s'il veut construire une culture foot à Paris et que Paris devienne une ville de foot, on peut pas dire ça quand on est dirigeant.
Non, mais après, entre nous, est-ce qu'il a tort? Concrètement.
Mais il a pas à le dire.
Il a pas à le dire, d'accord. Mais il y a une confusion sur ses propos. Je suis d'accord avec Florian sur le côté où, une fois qu'il a dit ça, il aurait dû dire, mais nous, on a des supporters au Parc des Princes.
Mais il l'a pas fait.
Parce qu'en fait, la confusion des supporters, c'est, en fait, il n'y a pas de supporters au Paris Saint-Germain. Non, là, c'est pas vrai.
Alors qu'ils ne disent pas Marseille est la ville du foot. Parce que Lens est une ville de foot.
Bien sûr.
Eh oui,
mais il y a une région de foot plus qu'une ville. Je suis pas sûr. Ouais.
Mais peu importe.
Ce qu'on appelle des villes de foot, pour moi, je suis désolé, c'est pas Saint-Etienne et Lens, c'est Marseille, c'est Naples, c'est Rio, toutes ces villes-là où ça respire le foot, quoi. Où le foot est en permanence dans la ville et c'est unique. Pour moi, c'est unique à Marseille. Après, c'est pas parce que t'es pas une ville de foot que t'as pas le droit de gagner des trophées. Et effectivement, Milan l'a fait, Turin, c'est pas particulièrement une ville de foot, mais c'est un club qui a gagné. Et voilà, t'as pas besoin d'être une ville de foot pour gagner des trophées. Et je trouve que ça, on a l'impression qu'il s'en sert un peu comme une excuse. On a échoué et peut-être qu'on va échouer dans le futur parce que on n'a pas ça. Si c'est vraiment ce qu'il y a derrière sa déclaration, c'est un jeu dangereux.
Et alors, ce que lui reprochent les supporters également, c'est un peu d'une autre façon, mais quand même, il y a des connotations. Ce que les supporters parisiens avaient reproché à Ibrahimovic, où Ibra avait dit avant qu'on arrive,
il n'y avait rien à faire du club.
Il faut quand même se souvenir que Leonardo est resté combien de temps?
Une saison.
Il a joué combien de matchs? Une cinquantaine.
Ah ouais, il a fait une seule saison, il est parti après.
C'est aussi ce que les supporters soulignent, et a raison. Donc la question, c'est de savoir s'il a eu raison de le dire comme ça, ou s'il aurait dû nuancer son propos.
Mais parce qu'il n'est pas sensibilisé, encore une fois, à cette culture foot, cette culture des supporters. Pour les supporters, voilà, c'est important. C'est important. Et lui, il a mélangé la ville et les supporters. Et comme disait Bruno, je pense qu'on peut réussir sans être une ville de foot. Parce que Paris a des supporters fidèles et chaleureux.
Après, c'est aussi quelqu'un qui est un peu contesté en ce moment. Son retour, on s'est dit, ouais, super, le retour de Leonardo, super dirigeant, qui va remettre le club du PSG sur les bons rails, etc. Et puis on s'aperçoit que c'est un échec, en fait.
Sa gestion marche pas
comme son premier passage.
L'échec, c'est fort comme
terme. Il devait vendre des joueurs cet été, il les a pas vendus. Pour l'instant, il occupe l'espace médiatique, mais en coulisses.
Il travaille pas très bien, il l'occupe même pas.
Chaque fois qu'il fait une sortie, on en parle, et on en parle pour des mauvaises raisons.
Il fait combien de sorties par an?
Il en fait deux à trois.
Il est directeur sportif, normalement, notamment sur l'histoire des blessures, c'est lui qui devrait parler. Je trouve que Tourelle se retrouve un petit peu comme Laurent Blanc il y a quelques années, un peu tout seul.
Rappelle-toi quand même un Théo Henrique qu'on n'entendait pas du tout.
Leonardo,
on voit 4-5 fois dans la vie.
Leonardo, c'est très peu.
Non, mais
par rapport à l'actualité parisienne,
oui, intervenir
tout ce qui se passe et toutes les problématiques.
Je suis pas d'accord. Tourelle, il veut être un manager important, un entraîneur important. Comment ça se passe en Angleterre? Klopp, c'est lui la façade du club. C'est lui qui vient à chaque fois dans la presse. S'il n'y a pas de directeur sportif,
il a pas les mêmes fonctions.
C'est pas le président, c'est pas les propriétaires.
Il est
entraîneur manager. Ils ont à peu près le même rôle. Faut arrêter. C'est pas Klopp qui décide du recrutement. Il y a un directeur sportif à Liverpool. À United, c'est pareil. Solskjaer, il vient devant la presse toutes les semaines. C'est lui qui défend le club. C'est à lui de se justifier, de s'expliquer sur ses choix, sur toute la politique.
Non,
c'est pas le président, c'est pas les dirigeants.
Sur les choix sportifs. Mais Leonardo, il devrait avoir un rôle.
Klopp, il doit se défendre sur le recrutement. Solskjaer doit se défendre sur le recrutement. Guardiola, à chaque fois, il est interrogé sur ses défenseurs.
Mais Klopp,
il a beaucoup plus la main.
Klopp a beaucoup plus la main sur le club de par ses résultats que Tourelle. Tourelle, on l'a bien vu, il a demandé des joueurs qu'il n'a pas eu. Donc, il peut pas se justifier de choix qu'il ne fait pas. Plus compliqué.
C'est une passe décisive que vous m'offrez, car derrière la publicité et derrière les messages, nous allons parler de Thomas Tuchel et de son image qui semble s'effondrer. Ce sont les résultats d'un sondage très intéressant, préparé cette semaine par nos amis d'Odoxa pour RTL et Winamax. Émission 100% interactive, Baptiste Durieux, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux.
Bah, il suffit que ça concerne Paris et Marseille, effectivement, il y a plein de messages. Message de Giggs qui nous dit la seule véritable ville de football en France, c'est Marseille. Et on n'a certainement pas attendu que Leonardo le dise pour le savoir. Même les joueurs, d'ailleurs, quand ils vont au Vélodrome, ils sont choqués. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Il y a même un club, un compte Twitter, pardon, qui s'appelle l'Historique Paris, donc compte pro-parisien, qui nous dit « Paris n'est pas une ville de foot, Marseille en est une. Vous faites les choquer devant ce constat de Leonardo. Pourtant, c'est tellement vrai. Aucun débat possible là-dessus, il faut être réaliste. Leonardo s'exprime mal, mais il y a zéro polémique. » Message de Corentin. « N'importe quoi, je suis un grand supporter du PSG depuis mon enfance, mais je me sens absolument pas offusqué par les propos de Leonardo, qui ne sont que factuels. Paris n'est pas une ville de foot, Marseille oui. Le point essentiel, par contre, c'est que Paris a une équipe de foot et Marseille non. » Et puis beaucoup de messages sur le communiqué qui a été rédigé par le collectif Ultra Paris. Message de Tristan, le communiqué est presque ridicule certes, mais il est simplement la confirmation des très mauvaises relations entre Leonardo et les supporters au-delà de ce débat futile et ridicule.
Merci Baptiste Durieux pour ceux qui ont consulté en détail ce communiqué. Ridicule.
Lamentable. Lamentable, ouais. Il y a des mots qui sont utilisés que je trouve très graves.
Il y a des mots forts, mais en même temps, on peut pas demander aussi. On veut que les clubs aient une histoire et une culture foot. À un moment, les supporters ont aussi leur mot à dire. Donc, je suis pas choqué.
Là, ils veulent prendre trop de place.
Ils veulent prendre beaucoup de place.
Honnêtement, c'est lamentable.
19h et bientôt 32 minutes. Une page de publicité et l'image de Thomas Tuchel avec Odoxa et Winamax. On fait le match jusqu'à 20h, 23h. RT Foot avec le match, bien sûr, Portugal-France, toute l'équipe d'RTL Foot. A tout de suite.
RTL, on refait le match. RTL, on refait le match. Christian Olivier.
On fait le match, l'image de l'entraîneur Thomas Tuchel. Et puis à 19h45, les tirs au but avant RTL Foot, 20h. Bonsoir Émile Leclerc.
Bonsoir.
Directeur d'études pour Odoxa avec un baromètre extrêmement intéressant, comme ils le sont tous d'ailleurs chaque semaine, que ce soit sur le foot ou sur le reste de l'actualité sportive. Et il porte sur Thomas Tuchel. Et l'image de Thomas Tuchel, vous allez nous décortiquer cela de façon tout à fait professionnelle, Émile, car l'image s'effondre. Elle ne se détériore pas, mais elle s'effondre véritablement.
Exactement. Alors, on mesure l'image de Thomas Tuchel dans le temps depuis son arrivée au PSG. On avait constaté qu'il avait bénéficié d'un crédit considérable dès son arrivée. Les amateurs de football estimaient que c'était l'homme de la situation. Et en février 2019, on leur avait demandé une image détaillée sur tout un tas de critères. On a reposé cette image, donc en l'espace d'un an et demi, et on voit des évolutions qui sont très marquantes à la baisse. Et son image s'effondre. On a plus que 60% des amateurs de football qui le jugent bon tacticien. Ils étaient 81% en février 2019, donc ça fait moins 21 points. Le fait qu'il propose du beau jeu, on a plus que 52% qui le pensent, moins 27 points en un an et demi. Bon communicant, 50% le pensent, ça fait moins 20 points. Le fait qu'il gère bien les égos des stars, 47%, ça fait moins 19 points. Et charismatique, 45%, 14 points de baisse. Donc vous voyez, sur chacun des critères testés, il perd une vingtaine de points. C'est assez colossal et on n'a pas l'habitude de voir ça en sondage. Et surtout, c'est presque étonnant, 3 mois après le résultat de Thomas Tuchel, c'est-à-dire quand même une finale de Ligue des Champions.
Alors, David disait, ce n'est pas étonnant, mais à ce point, c'est tout de même remarquable.
C'est impressionnant en tout cas. Non, je dis c'est pas étonnant parce qu'il a eu une communication qui a été quand même assez chaotique.
J'étais assez surpris parce que quand il arrivait, souvenez-vous, quand il est arrivé d'Allemagne, même d'ailleurs vu d'Allemagne, tout le monde était enchanté par ce personnage, voilà, qui était très souriant, qui avait fait l'effort d'apprendre le français, qui était séduisant quelque part. Et il était extrêmement positif. Et là, il a basculé dans quelque chose de complètement différent, où il a commencé à se plaindre beaucoup, à être systématiquement dans le positivisme forcé, même quand son équipe jouait mal. Donc, il a complètement basculé. Donc, c'est là où je dis que c'est pas surprenant, c'est qu'il a une communication tellement, pour moi, catastrophique désormais que son image s'en ressent.
Ouais, moi c'est pas surprenant parce que l'image qu'il dégage quand il vient en conférence de presse, quand il se cherche des excuses en permanence, alors que c'est quand même le club le plus riche en France, puis de très 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 loin, qui cherche à chaque fois des excuses par rapport aux blessures, que c'est compliqué de faire 11, etc. C'est à pleurer, quoi. C'est pas possible. Et autant avant, sa communication, qui était plutôt bonne, pouvait un peu arranger les angles de son travail sur le terrain, qui était pas toujours très bon. Autant là, sur le terrain, il fait des choses complètement incompréhensibles, avec des choix, le dernier en date, avec Marquinhos au milieu et Danilo en défense centrale. C'est juste à mourir de rire. Et maintenant, il a même plus ça. Il a même plus cette communication derrière pour soigner un peu ce qu'il fait sur le terrain. Donc là, c'est une descente aux enfers. Et il s'est même à se demander si lui provoque pas un peu l'étincelle pour que se faire virer avant la fin de la saison.
Personne pour le défendre ?
Bah, c'est un petit peu compliqué parce que il y a quand même une bascule, c'est ce match contre Manchester. Avant, finalement, il avait beaucoup de crédit, il faisait plutôt bien jouer l'équipe parce qu'on se plaint aujourd'hui que Paris n'a plus de projet collectif, mais enfin, il en a eu un à une époque et au début, quand Tourelle est arrivé, on louait ses qualités, il faisait vraiment bien jouer l'équipe. Et puis, il y a eu ce match à Manchester et il a vraiment perdu le fil, il y a eu la Coupe de France. Et depuis, on a l'impression qu'il court après la formule magique, la potion magique comme un druide gaulois, mais qu'il la trouve pas. Et que du coup, eh bien, tout ce qui était ses qualités redevient des défauts. Et j'ai l'impression, faisant un parallèle, puisqu'on parlait de Marseille, que Villas-Boas, c'est un peu pareil. Première année, c'était formidable, super communication, oh, il dit tout, il est honnête. Et puis là, il tombe dans un truc de parano, de démago horrible. Et j'ai l'impression que, voilà, c'est en la bascule. Est-ce que c'est parce que c'est la dernière année de contrat?
Non, mais
que...
ça va avec les résultats, surtout.
Bah, les résultats, pour l'instant, Paris est leader du championnat.
Ligue des champions.
Ligue des champions, non, mais voilà. Alors après, on va dire, oui, c'est de l'autogestion. Ils sont partis en autogestion, c'est pas grâce à Tourelle qu'ils sont arrivés en finale. Bon, on peut dire ce qu'on veut. Mais il y a aussi l'effet dernière année de contrat. C'est-à-dire qu'on a, il sait Tourelle, on sent qu'il sait que c'est fini. Comme Villas-Boas ne doit pas se faire beaucoup d'illusions, et que quelque part par là, maintenant il joue sa carte.
Il fait tapis, quoi. Il balance
ouais,
tout.
C'est ça. Je vais mourir avec mes idées. Voilà.
Je n'arrive vraiment pas à croire.
Bah, on a quand même l'impression.
Un manque de professionnalisme, alors, à ce moment-là.
Non, pas forcément.
Non, mais il est embauché. Il joue sa carte personnelle sur le côté aussi. Le message qu'il renvoie après derrière aux autres clubs qui sont potentiellement intéressés par lui. Aujourd'hui, Thomas Tuchel, on le sent quand même ultra agressif, ultra sur les nerfs. La moindre petite question, je suis d'accord avec mes confrères sur le côté où au début c'était sympa, il était souriant.
Honnêtement,
ses conférences de presse étaient vraiment ultra intéressantes par rapport aux techniciens français où c'était un peu plus langue de bois, etc. Lui, il te disait les choses. Il disait pas, je vais mettre 11 joueurs comme faisait Ancelotti, mais en tout cas, il y avait une certaine franchise.
Après, on peut le comprendre parce que, certaines parts, c'est qu'il sort de la meilleure saison du PSG, saison historique, il va en finale avec des champions, c'est lui l'entraîneur, donc il est forcément un petit peu responsable. Et on lui est tombé dessus, mais
complètement.
À peine une semaine après la finale, en disant que son travail était catastrophique, etc. etc. Donc je pense qu'il se sent un peu vexé. Et que quelque part, voilà, il envoie tout balader.
Enfin, je retiens que pour la majorité des Français, il est bon tacticien toujours, même s'il baisse. Il donne du temps de jeu aux jeunes, même s'il baisse. Il propose du beau jeu, même s'il baisse. C'est un bon communicant. Là, c'est du 50%. Et c'est à 47% qu'il gère bien les égos des stars. Donc la minorité charismatique, 45%. Bon, presque envie de dire que...
Il propose du beau jeu.
Oui. Ouais. Beau jeu pour 52%. Ouais. Émile Leclerc. Alors, la question, la deuxième, c'est capacité de Thomas Tuchel à gagner la Ligue des Champions.
Ben oui, on avait posé cette question juste après son arrivée en octobre 2018. Il y avait 64% des amateurs de football qui nous disaient oui, c'est l'entraîneur qu'il faut au PSG pour remporter la Ligue des Champions. On a vu qu'il n'avait pas été loin de réussir ce pari. Et aujourd'hui, ben seulement 41% d'entre eux le pensent. Donc ça fait quand même 23 points de baisse. Donc là encore, c'est l'image de l'entraîneur s'est totalement effondrée. Il était un peu idéalisé au départ et aujourd'hui, les amateurs de football sont assez sévères avec lui, sont assez critiques. Et même si effectivement, vous le disiez, ces items d'image détaillée restent majoritairement positifs, c'est quand même assez faible parce que généralement, les amateurs de football sont plutôt positifs à l'égard des entraîneurs. Ils ont du mal à être sévères au point de donner des chiffres si faibles.
Je pense que nos amis de Doxa auraient dû poser la question suivante. Capacité au Paris Saint-Germain à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
On l'avait posé à la fin du mois. La semaine dernière, oui.
Ouais. Messieurs, un commentaire sur cette finale de Ligue des Champions. La saison est longue, en attendant...
J'ai toujours du mal avec le fait que c'est l'entraîneur qui va te faire gagner la Ligue des Champions. Moi, j'ai le souvenir que Chelsea l'a gagné au bout de 9 ans. Beaucoup d'investissements avec Roberto Di Matteo.
L'excellent.
C'est évident que je pense que si tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions avec Jürgen Klopp qu'avec Thomas Tuchel. Mais en même temps, il est en finale. Donc,
Non, mais là où je pense qu'il y a ce que peut-être traduit le sondage de nos amis de Doxa, c'est peut-être le fait qu'on a le sentiment qu'il a plus la main sur le groupe. Autant tu l'as rappelé, Florian, au début, il y a quand même eu des matchs. Il y a eu le Paris Saint-Germain-Liverpool au Parc des Princes en poule. C'est un match abouti. Je veux dire, ils ont bousculé Liverpool, ils les ont battus logiquement. Il y avait quelque chose.
Avec un vrai plan de jeu,
etc. Ouais. Et ça jouait, il y avait quelque chose. Depuis notamment le retour face à Manchester, on a l'impression que le plan de jeu, il n'y en a plus vraiment et qu'il a donné les clés du camion à Mbappé et Neymar et que ça tourne autour de ça. Donc je pense que voilà, ça traduit cette forme de renoncement un petit peu, quoi.
Après, quelles sont les grandes équipes aujourd'hui qui cartonnent en Ligue des Champions ? Honnêtement, qui sont super forts. Non, mais au-delà du Bayern,
Liverpool.
Ouais, Liverpool, il y a deux équipes. Mm-hmm. Après, derrière, tout le monde tousse, que ce soit le Real Madrid, Barcelone,
mais justement, d'autant plus.
Paris Saint-Germain, c'est pareil.
Mais d'autant plus, on est dans un cycle où les gros d'Europe, le Barça, le Real, sont pas en crise, mais un peu en déclin ou en transition, etc. Et que le PSG avait une opportunité énorme et qu'ils l'ont pas saisi.
La saison est pas terminée.
Non, mais ils l'ont pas saisi les dernières parce qu'ils auraient pu la saisir dans un contexte particulier de Final 8, un match.
Une finale, tu perds
deux matchs. Là, en l'occurrence, aujourd'hui en Europe, qui est-ce qui est. Il y a le Bayern. Il y a Liverpool, mais on a appris encore que le partenaire de Van Dijk est déjà blessé. Gomez s'est blessé gravement, il sera out toute la fin de la saison. Enfin, c'est une opportunité énorme du PSG et ils doivent la saisir. Il a quand même un matos exceptionnel, Tourelle.
Ouais, la limite, elle est là, c'est que le matos exceptionnel qu'il a, notamment ces deux superstars, moi je constate quand même que tous les matchs clés du Paris Saint-Germain, ils ont calé les deux. Et s'ils ont calé, c'est peut-être aussi parce que l'entraîneur les a pas réussi à les emmener là où ils devraient.
Ou parce qu'il n'y a pas de collectif autour d'eux.
Mais c'est l'entraîneur qui fait le collectif.
Ouais, messieurs, on a la compo de l'équipe de France, mais on l'a teasé un tout petit peu.
Il y a des surprises.
2-3 minutes encore. Il y a quelques surprises. Il y a quelques surprises. Dans un instant, le tandem s'en fout, Jean Giraud. Pas une surprise sur les commentaires des matchs de l'équipe de France. Troisième thématique, cher Émile Leclerc, pour Odoxa, RTL ou Winamax, la popularité du Paris Saint-Germain.
Oui, et là encore, on la mesure dans le temps. Et ce qu'on observait depuis novembre 2016, on observait une constante augmentation de l'image du PSG. Alors, ça a toujours été un club clivant, pas ultra populaire, mais ça s'améliorait dans le temps. Et là, on constate une baisse qui est très marquée en l'espace d'un an et demi. Moins 12 points chez les amateurs de football, il n'y en a plus que 50% qui ont une bonne opinion du PSG. Et moins 8 points chez les Français, il n'y en a plus que 38% qui ont une bonne image du PSG. Alors, Thomas Tuchel n'est évidemment pas le seul responsable de cette baisse. Les résultats du club très récents peuvent l'expliquer, mais il ne peut forcément y être totalement étranger à mon avis, parce que c'est quand même celui qui incarne la communication du PSG dans les médias, et puis il est quand même comptable des résultats du club sur le terrain.
Un sujet à débat sur la popularité du PSG.
Oui, parce que je pense qu'il y a quand même un autre élément, c'est Neymar, parce que s'il y a bien quelqu'un qui a un poids médiatique aujourd'hui au Paris Saint-Germain, c'est Neymar, et son image, elle est pas bonne. Il a accumulé un nombre incroyable de casseroles et d'affaires négatives qui nuisent, à mon avis, in fine, à son image. Alors évidemment, c'est l'idole des enfants, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, hélas, l'image de Neymar, elle est négative pour le club.
Même, je dirais, à un degré moins. Mbappé.
Et aussi,
t'as l'impression que son image est un petit peu moins bonne qu'il y a quelques mois et que forcément ça déteint sur le club où il est, le PSG.
Merci Émile Leclerc, merci. En sachant que tous ces résultats et cette étude intéressante seront à retrouver à la fois sur RTL demain 9h et sur le site RTL.fr. Bonne soirée à vous, Émile.
Bonne soirée.
19h43, la publicité, on prendra la direction du Stade de la Lumière à Lisbonne pour la compo des équipes avec Philippe Sanfour chez Nicolas Georgiou, puis les tirs au but, le reste de l'actualité. On fait le match, nous sommes ensemble jusqu'à 20h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
19h45, à la seconde près. On va faire un peu de place à nos envoyés spéciaux à Lisbonne. Bonsoir Philippe Sanfour, Nicolas Georgiou.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Car de la place, ils en auront à partir de 20h. Jusqu'à 20h.
Toute la place, même.
Priorité à l'info, breaking news, la composition des équipes, la feuille de match. Philippe Sanfourche, Nicolas Georgiou. Et on parlait de surprise. Il y en a au moins une.
Alors, en tout cas, il y en a une qui n'est pas une surprise pour les auditeurs d'RTL qui nous écoutaient dès hier soir, c'est que Kylian Mbappé.
Bah, c'est pas une surprise.
Forfait.
C'est pas une surprise.
Bah, non.
Mais on parle de surprise.
Il y avait quand même.
Je veux la surprise. Ah non, mais ça, c'est Philippe Sanfour. Oui, Philippe Sanfour. L'information a été donnée par Philippe Sanfour.
Il a raison, évidemment.
Bien sûr.
Bon, oui, non, là, effectivement, la surprise, elle se situe également dans le secteur de l'attaque. C'est l'absence d'Olivier Giroud au coup d'envoi qui sera donc remplaçant. En fait, Didier Deschamps a tout simplement décidé de débuter cette rencontre avec l'équipe qui avait terminé le match aller face au Portugal, puisque Martial était rentré à la place de Giroud et que Kingsley Coman était rentré en lieu et place de Kylian Mbappé. Sinon, pour le reste, c'est la même équipe, c'est-à-dire un 4-3-3 avec Loris dans les buts, Varane Kimpembe en charnière centrale. Il y avait un petit doute sur Kimpembe, il est bien là. Hernandez est à gauche, Pavard lui aussi qui était tangent est là à droite. Le milieu de terrain, c'est le même, Kanté, Pogba, Rabiot. Sur la composition qui nous est donnée, Rabiot débute à droite, Pogba à gauche, mais on s'était rendu compte que tout ça pouvait être très mouvant et que les deux avaient très souvent interverti les postes. Et donc, je vous rappelle, le trio offensif ce soir, composé de Martial en pointe, avec Griezmann très probablement plus à gauche et Kingsley Coman à droite.
Philippe, notre question centrale à 18h30 dans Fait le match et à l'aune de cette composition d'équipe par rapport à la défaite de mercredi dernier et avant le match contre le Portugal, c'était de savoir si Didier Deschamps avait actuellement plus de doutes que de certitudes.
Des doutes, il en a, je pense qu'il en avait même avant le match contre la Finlande, parce que sur le plan physique, il a pu constater avec les équipes du staff médical que c'est pas des paroles en l'air, le fait que toutes les 24 heures les joueurs s'expriment pour dire qu'ils sont cramés physiquement et aussi une forme de fatigue psychologique. Donc ça, c'est une chose qu'il a pu constater. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus trop tirer de conclusions de ce qu'on a vu face à la Finlande. C'est un couac, c'est un mauvais match, et en plus des titulaires qui sont rentrés, des cadres qui sont rentrés dans cette rencontre et qui n'ont pas non plus été très très bons. Je pense notamment à Paul Pogba qui lui a même débuté. Voilà, il y a des joueurs qui doivent se remettre en question, mais on sait que les grandes équipes, le haut niveau, c'est dans les grands matchs qu'on peut réellement les sous-peser. Là ce soir, c'est le vrai test et je ne suis pas non plus certain que Didier Deschamps soit plus inquiet que ça non plus.
Nicolas Chargereau, vous connaissez la vague de Nazaré au Portugal?
Superbe de surf.
Oui, tout
formidable.
J'ai pas amené ma planche, mais.
La prenez pas, hein. Restez bien, bien au calme sur la
plage. C'est un peu haut là.
15 mètres de haut.
Pour dire que actuellement le Portugal surfe sur une vague gagnante.
Bravo, c'est beau.
C'est une équipe qui a vraiment des chiffres impressionnants ici. Hein, une seule défaite sur les 22 derniers matchs. La dernière fois qu'ils ont perdu, c'était il y a 2 ans et demi face aux Pays-Bas. C'est une équipe aussi qui n'a pas encaissé de but depuis 5 rencontres. On parle beaucoup du potentiel offensif, mais il y a aussi une très très belle assise défensive. Fernando Santos avait fait largement tourner, comme Didier Deschamps, face à Andorre en milieu de semaine. Il a changé complètement le 11 et évidemment c'est le retour de tous les cadres avec Rui Patricio dans le but. Une défense avec Cancelo, Fonte, Diaz et Guerrero. On rappelle que Pepe est blessé, touché à un pied. Le milieu de terrain avec Bruno Fernandes, Carvalho et Danilo Pereira. Et puis les trois de devant, évidemment Cristiano Ronaldo et Joao Félix, mais Bernardo Silva qui est bel et bien confirmé. Ce ne sera pas Diogo Jota qui était un temps pressenti éventuellement pour être dans le 11 de départ.
Belle équipe, belle équipe.
Très surpris de voir Dayo au milieu de terrain. Mais...
c'est pas gentil pour Turel en vérité. Alors moi je voudrais quand même vous rappeler deux petites choses. Je voudrais vous rappeler à vous tous également, Nicolas, Philippe, qui est au stade de la Lumière. Vous vous rappelez du moment où l'équipe de France avait concédé 2 défaites consécutives à domicile?
À domicile.
Pas à domicile?
Pas à domicile, non.
Non, consécutive.
Consécutive.
Oui, c'était.
Ah oui, il y avait Belgique et là-bas. Oui.
Belgique et Albanie.
Et
là-bas, oui. Bon, et bien ensuite, l'équipe de France a participé à la finale de l'Euro.
Oui. Qu'elle a perdu contre le Portugal.
Donc on va souhaiter qu'elle perde ce soir?
Peut-être.
Non, c'est un peu un calcul.
Bon. Et la deuxième chose, je le disais tout à l'heure, mais vous n'étiez pas connecté, comme on dit dans notre jargon. On est bien d'accord pour dire, parce que je l'entends, ça m'agace, que le Portugal n'a rien à voir avec l'équipe championne d'Europe, à part 3 ou 4 éléments. C'est pas du tout l'équipe du Portugal qui a été championne d'Europe en 2016. On est d'accord.
Oui, et puis c'est une équipe qui est en reconstruction. Il y a un mélange de générations et de générations très talentueuses. Alors, on focalise beaucoup sur Cristiano Ronaldo, mais quand on voit tous les noms dans cette composition, c'est une équipe aussi tournée vers l'avenir, tournée vers la Coupe du Monde 2022, notamment, et après. Et c'est sûr que c'est une équipe qui aura... C'est peut-être une des sélections qui joue le mieux actuellement hein, au monde. Fait partie peut-être 3-4 sélections qui jouent le mieux et qui est très très solide, encore une fois, je le répète.
Qui est solide, c'est une équipe qui joue le mieux. Est-ce que c'est un football spectaculaire? Voilà, c'est Portugal, c'est pas le Brésil de sa plus belle époque non plus. Hein, je veux dire.
Non, c'est sûr, mais
ça joue mieux qu'en 2016. Hein.
Ils ont quasiment marqué 30 buts sur leurs 10 derniers matchs. Ils en encaissent pas du tout. C'est des équipes. En plus, c'est une équipe. Si elle doit mettre un carton, elle le fait. Non, c'est une équipe spectaculaire. Alors, c'est vrai qu'il y a juste une chose, c'est que au mois d'octobre et au mois de septembre, quand elle a joué contre l'Espagne et contre la France, il y a eu deux fois 0-0. Et ça, c'est extrêmement rare quand on voit un petit peu le chemin de cette Seleção, parce qu'il y a toujours des buts avec eux. Mais c'est aussi une équipe qui sait être solide.
On vous souhaite une belle soirée à Lisbonne, messieurs. Une belle retransmission en compagnie d'Éric Silvestro, Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Raymond Abou. Et pour les messages, émission également 100% interactive, Quentin Vasselin. Rendez-vous 20h05 avec la fine équipe. Merci à vous, Philippe Sansfourche, Nicolas Georgerot. Alors, que fait-on? Je m'adresse à l'ami Damien Béchiot, réalisation.
Les tirs au but.
Les tirs au but directement ou rien à ajouter sur le Portugal-France, messieurs?
Non. C'est une petite sanction quand même envers Olivier Giroud. Quand on voit la composition d'équipe, alors après on va voir comment va se dérouler le match, mais j'ai l'impression que l'équipe de France veut jouer en contre. Autant Didier Deschamps disait hier, ça on va ressemble, pas subir, ouais. Mais
avec
là ils vont jouer en contre.
Avec la vitesse,
la profondeur, ouais. Coman qui va plonger. Donc
et tu crois pas en Giroud pour la vitesse, toi?
Giroud, c'est pas sa qualité première, la vitesse.
Et dans le dispositif, Robert Pires, évidemment.
Ah bah oui, quand même.
Alors les tirs au but, c'est parti à 19h52. Je rappelle le principe, si vous nous rejoignez, c'est une série de sujets qu'on n'a pas traités dans On fait le match et que je n'ai pas soumis à nos amis chroniqueurs, débatteurs présents dans ce studio. Et au coup de sifflet, mais uniquement au coup de sifflet, eh bien, le plus rapide, celui qui a du mental, qui est solide sur ses jambes, parce qu'il y en a qui parfois...
Ça flageole.
Oui.
Ça tremble. Je suis un peu Griezmann,
allez pas. Alors, vous emparez du micro et vous nous dites ce que vous avez envie de nous dire. Alors, on va faire quelque chose sur un match qui doit ou qui ne doit pas avoir lieu. Tiens, samedi prochain, on va se projeter. Marseille-Nice, samedi prochain, doit avoir lieu à 21h. On est tous d'accord pour l'instant. Mm-hmm. Probablement reporté, non pas annulé, comme je l'entends ici et là. À cause du Covid, trop de cas Covid
à Nice.
On est d'accord toujours. Colère de l'Olympique de Marseille, qui ne comprend pas pourquoi cette annonce est aussi prématurée.
Il n'y a pas d'annonce pour l'instant.
Faut dire. Enfin, si, il y a une annonce de l'OGC Nice.
Oui.
C'est pas
Nice qui décide.
Enfin, il y a eu un communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. Alors, justement, annonce troublante ou pas?
Oui et non. Oui et non. Moi, ce qui me trouble, c'est l'attitude de l'OM. C'est
Bruno Constant.
C'est que l'OM, en début de saison, quand il leur manquait 3 titulaires, ils pleuraient un peu pour justement reporter les matchs parce qu'ils avaient l'impression d'être en difficulté. Et que là, à Nice, il y a combien? 10, 12 cas?
Ouais, une douzaine. Ouais.
Une douzaine. Donc, forcément, ça va. Avoir une répercussion sur l'effectif et le 11 titulaire de Nice qui va être énorme. Donc forcément, ça paraît un peu logique de le reporter.
Entre-temps, le règlement a changé par rapport à la position de l'OM. Oui. Et donc du coup, l'OM est dans son bon droit. Donc moi, effectivement, je comprends leur position de dire...
C'est quoi un groupe de 20 joueurs et un gardien de but hein.
Exactement. Donc pour l'instant, on n'en est pas dans ce cas de figure du côté de Nice. Et surtout, il est trop tôt pour le dire. Donc moi, je comprends
quand ça les arrange, en fait, l'OM.
Ouais, mais en tout cas, on pourrait dire aussi qu'ils s'adaptent au règlement.
Enfin, il faut quand même rappeler qu'ils ont déjà un match en retard contre Lens, Marseille, ça en ferait deux. Après, c'est aussi un argument qu'on peut recevoir. Parce qu'après, il faut les recaser ces matchs et c'est pas forcément une bonne chose.
Là, la décision n'est pas prise. C'est une façon aussi pour Marseille de mettre la pression sur la Ligue pour le match reporté.
Deuxième tir au but. Et là, j'ai décidé désormais, c'est également une nouveauté, de faire un petit calcul, de voir qui remporte cette série.
Voilà. Ah, c'est pas mal ça. Ça sera communiqué ou pas?
Oui. À la fin de l'émission. Ah.
C'est-à-dire que David peut retirer un pénalty.
Donc, 1-0 pour l'ami Constant. Le fils de. Il peut breaker. Et il peut breaker ce soir. Le fils de Robert et Margarita Louis-Dreyfus, sur le point d'acheter Sunderland, l'équivalent de la 3e division anglaise. Info intéressante ou finalement on s'en fout?
Intéressante.
Limite quand même. Hein, j'accepte, mais quand même.
Il a mordu.
Forcément intéressante parce que pour ceux qui ont eu la chance de regarder, de suivre la série documentaire sur Netflix sur ce club de Sunderland, absolument magnifique. ils auront compris ce qu'est le football anglais, ce qu'est la très populaire du football anglais, ce club de Sunderland, qui est un grand club malgré ses résultats en grande difficulté, deux relégations successives. C'est un pari intéressant. Moi, j'ai envie de savoir ce qu'il peut réaliser là-bas, s'il peut vraiment relancer ce club très populaire dans le nord de l'Angleterre, et savoir si à terme, pourquoi pas, il pourrait pas jouer un rôle à l'OM.
Bah, en tout cas, on va juste rappeler quand même qu'il a 22 ans.
Ouais.
C'est quand même important.
Ouais. Et on a rappelé quand même qu'il ne voulait pas vendre l'OM. Il ne voulait pas que la famille le cède.
Et d'ailleurs, il avait gardé une part. Je crois qu'il l'a plus. Mais... Ouais.
2-0. 2-0 pour Bruno Constant. Okay. Je note hein, au fur et à mesure. 2-0 pour.
Il y a un match retour, parce que j'en ai mal à rien.
Il y a 3 minutes.
Alors, il joue à domicile aussi, ceci.
Troisième tir au but. Il est moins drôle, celui-ci. Soyez attentifs. Après la Coupe du Monde 2018, des accusations de harcèlement ont été révélées aujourd'hui, hier, avant-hier, par plusieurs journaux. Tout cela s'est produit. Hein, après la Coupe du Monde 98, plusieurs cas et accusations de harcèlement au sein de la Fédération Française de Football. Est-ce une guerre des clans avec règlement de compte en vue des élections? Noël Le Graët a-t-il raison de ne pas trancher?
Non, il n'a pas raison.
David Ayello.
Un peu mordu, mais c'est pas grave.
Ça passe.
Non, pour moi, il n'a pas raison. Il y a quand même, ça fait plusieurs années maintenant qu'on sait qu'il y a ce climat à la Fédé, que c'est documenté, qu'il y a eu des enquêtes. Lui-même a demandé un audit, et on a l'impression là qu'il cherche à passer en force. Bon, il tient à préserver à tout prix la directrice adjointe, qui par ailleurs a un travail phénoménal. Mais il y a un problème.
Florence Ardouin.
Il y a un problème de management qui est manifeste. Donc le fait de vouloir fermer les yeux comme ça sur le problème, pour moi, c'est une erreur de sa part de management également.
Il y a une histoire de timing. Si ça sort maintenant, c'est pas anodin.
Ça fait longtemps que ça sort aussi.
Oui, enfin là, c'est sorti vraiment du bois. Hein, mm-hmm. C'était publié, mm-hmm. Cette grande enquête dans l'équipe. Si ça sort maintenant, c'est qu'il y a des intérêts à ce que ça sorte. On sait que les élections sont en train de se préparer. Chacun fourbille son camp et ses armes. Et que voilà, on sent que ça va être la guerre à la FFF.
2-1 pour Bruno Constant. Le 1, c'est donc pour David Aiello. Fabien Barthez va donner un coup de main au Toulouse Football Club, actuellement 9e du championnat de France de Ligue 2. Des conseils auprès des gardiens de but. C'est un signe annonciateur d'un retour dans le monde du football?
Pas forcément. Pas forcément, parce que...
Oh, ça mord, là,
oh,
ça mord.
Ah non, là, c'est le divin chaud, en plus.
Je prends.
Non, pas forcément, parce que Fabien Barthez et le football de haut niveau, on sait qu'il n'était pas plus motivé que ça pour y travailler, et que là, Toulouse, bon, il peut peut-être les aider, les conseiller, à voir, sur du court terme et sur un poste bien précis. Mais par exemple, imaginez Fabien Barthez dans un rôle plus important d'un grand club professionnel, je suis pas sûr.
Rien à ajouter?
Non, pas c'est mieux. Exactement ça. Sur le côté de Barthez, c'est qu'on sent que c'est pas sa passion première aujourd'hui, d'après champion du monde, d'après footballeur, c'est... d'être à 100% du matin jusqu'au soir, 7 jours sur 7, ouais. Entraîner les gardiens de but.
C'était déjà pas sa passion quand il jouait?
Non.
Où il s'évadait parfois même pendant les matchs. Alors,
allez, t'as plus l'impression que c'est parce qu'il peut pas faire de rail en ce moment. Hein.
Bruno Constant ne peut pas être rejoint, mais pour le plaisir tout de même. Portugal-France, 20h45, 20h23, RTL Foot. Un pronostic. Ah, ça vous déstabilise. Hein.
0-0.
Oh non. Un partout.
Alors 0-0 Bruno Constant, un partout pour Florent Gazan. 1-0 pour l'équipe de France, Baptiste Després.
Et 0-0 aussi.
Et 0-0 pour David Aiello. 3 pénaltys à 1, donc tir au but à 1 pour Bruno Constant, bravo. Je vous donne une petite information, car on parlait des élections prochaines, mois de mars, à la Fédération Française de Football. Sachez que, c'est une information RTL, Michel Moulin, qui a été l'éphémère président du Paris Saint-Germain, propriétaire, ex-propriétaire de Paris Vendu, qui connaît très bien le football amateur, avec un réseau formidable, et bien est en train de monter un collectif pour sonder la possibilité de se présenter à ces élections. Et dans ce collectif, et bien figurent des personnes comme David Douillet, ex-judoka, Bernard Squarcini, actuellement responsable de la sécurité au sein du groupe LVMH, David Douillet, je l'ai dit, Franck Tapiro, publicitaire, Christine Kelly, présentatrice, Max Guasini également.
C'est un collectif métissé.
Voilà, mais c'est une information RTL. Plus de précisions sur les réseaux sociaux. Merci messieurs pour ce On fait le match assez exceptionnel. 20h23h avec toute l'équipe d'Eric Silvestro, Xavier Domergue, bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, la retransmission 20h45, coup d'envoi de Portugal-France. Très très bonne soirée à l'écoute de RTL. Merci de votre fidélité et merci également à Baptiste Durieux pour l'ensemble de ses messages. Ciao, ciao.
Passez un bon week-end sur RTL.
RTL, toujours avec vous.